J'aime bien ce petit son là du matin. Comment ça va? Quel plaisir. En fait, comme je le dis souvent, parce qu'à mon âge ça radote beaucoup, j'aimais bien ma vie d'avant. J'ai eu la chance de faire le métier que je voulais faire enfant, journaliste. C'était vraiment sympa. Mais c'est encore mieux. C'est encore mieux depuis 5 ans, depuis que j'ai créé ma chaîne Twitch. Comment ça va, les beaux gosses? C'est vrai que j'ai bonne mine. Le mec qui s'envoie des fleurs. Oui, parce que. Quelqu'un a dit t'as bonne mine ce matin. C'est vrai que j'ai bonne mine. Qui a le nom du son? Je t'envoie ça. Le son qu'on vient d'entendre, c'est l'artiste, c'est Xavi, Xavy, Xavi Ruzan, Rusn, Xavi Ruzan. Et son titre, c'est Never Met M E M, like Never Met Them. Cours annulé ce matin, ça m'est trop bien. Salut Silver. De rien, Jules. Ça va, Camille, super, super. Voilà, j'ai réussi à lire un comprimé de Dafalgan 3 fois par jour sur ordonnance. C'est vrai que. Me dit Diesel, le déchiffrage des ordonnances. C'est parfois tout un. Les pharmaciens savent. Vous avez remarqué que les pharmaciens, ils arrivent à lire l'écriture des médecins. C'est incroyable ça. Les pharmaciens, ils arrivent à lire. Salut Batman. L'écriture des médecins. Ou alors. Analyse alternative. Hypothèse alternative, ils font mine. Ils font mine. C'est-à-dire que, en fait, voilà, comme dit Hortax, j'y crois pas, ils improvisent. C'est-à-dire, ils sont là et disent, oh, qu'est-ce qu'il a dit encore, lui? Ouais, écoute, je vais voir. Quoi il ressemble? Oh, je vais mettre des vitamines, ça ira bien. Voilà. Hein? Ou alors, ils ont des cours dans la formation de pharmacien, il y a des cours de lecture spéciaux, ouais. Exactement. Je pense que c'est un complot de la Sécu pour nous contrer à la distance. Ah, ma petite commu de complotistes que j'aime bien. Maintenant, les médecins n'écrivent plus? Bah, si. Moi, quand je vais chez le médecin. Tiens, j'y vais aujourd'hui d'ailleurs. Ils me font une ordonnance et une sévère! Aux quatre coins de Paris, on va le retrouver façon puzzle. Bref, faut avoir la ref de vieux. Il n'y a pas l'heure pour la cérémonie des Pégases. C'est vrai, ça. Bon, je ne suis pas l'auteur de ce visuel, mais effectivement, jeudi. Non, c'est pas le proctologue. Non, je vais voir mon généraliste. Ça fait plus d'1 an que je l'ai pas vu. Ça veut dire que je suis plutôt en forme. Il connaît pas le Raoul? Exactement. Donc, effectivement, c'est à 20h jeudi. Jeudi, c'est demain, si je dis pas de bêtises. La cérémonie des Pégases, c'est un peu l'équivalent des Césars du jeu vidéo. C'est les distinctions sur les jeux vidéo. C'est une cérémonie assez chic. C'est à la Cigale à Paris. Et j'ai eu la chance, c'est la troisième année. Où je suis associé à cette cérémonie, qui est vraiment un chouette truc. La première année, il y a 2 ans, j'ai co-animé avec Salomé, l'animatrice qui présente cette cérémonie sur scène. C'était super. C'est une fille super. Elle anime incroyablement bien. La deuxième année, je pouvais pas être sur place. Du coup, j'ai réact la soirée depuis la maison. Et jeudi à 20h, je réact, mais de la Cigale. Chaque année, nouvelle formule. Voilà. Incroyable. L'année prochaine, je pense que je serai en haut de la tour Eiffel sur un fil. Je pense qu'on va faire. Voilà. Et donc on va regarder la cérémonie ensemble, on va un peu déconner ensemble, on va se passionner ensemble, on va voir quel jeu sur mon compte, ouais, sur ma chaîne Twitch. Ouais, j'aurais pu préciser sur ma chaîne Twitch. Et donc on va regarder tout ça ensemble, on va regarder qui est distingué, on attend sans doute des récompenses, enfin sans doute peut-être, on verra pour clair-obscur. Le Gotti et puis on verra des bandes annonces, des trailers de nouveaux jeux en exclusivité mondiale, internationale sur ma chaîne. Bah oui, parce que tout le monde peut pas être à la Cigale. Voilà. Donc quelle exclusivité? J'avoue que j'ai pas trop bossé encore là. Je sais que j'ai un gros conducteur à lire pour jeudi, mais comme les journées sont chargées en ce moment, faut que je bosse un peu. On va bosser là-dessus. Mais ça va être sympa, ça va être une soirée sympa. C'est jeudi 20h. Jeudi 20h. Et ta grande. Ah, ta grosse annonce! Il y a Adam Ramdam qui dit et ta grosse annonce. Alors, récemment, je suis passé devant la. J'ai une actualité qui est assez chargée en ce moment. Récemment, je suis passé pour jeudi, pour demain, quoi. Ouais, c'est ça, oui. Mais comme je m'y perds un peu dans mon emploi du temps, j'aime bien donner les jours. Alors oui, c'est demain. Mais quelqu'un écoutera ce replay peut-être en podcast audio ou sur YouTube et il saura plus si, tu vois, quel jour on est, à quel jour ça a été enregistré. Donc je préfère dire jeudi. Précision journalistique, baby. Oh, le melon. Et donc oui, la grosse annonce. Alors, grosse actualité en ce moment, il y a eu grosse commission, je suis passé devant la grosse commission, et bientôt grosse annonce. La plus grosse annonce sur ma chaîne depuis, oui, depuis des années, quoi. Un énorme truc. Oui, Sugar, tu peux faire un énorme truc. Voilà, je l'annonce entre normalement, je suis en train de bosser dessus, entre maintenant et dimanche soir. Peut-être samedi soir. Peut-être samedi. Peut-être samedi, je sais pas. On pourrait mettre ça dans la revue de presse des bonnes nouvelles. Comme samedi, il y aura une revue de presse des bonnes nouvelles. Vous savez, ce samedi, je prends que des bonnes nouvelles On pourrait dire que samedi, fin de journée. On fait une revue de presse des bonnes nouvelles qui commence par cette bonne nouvelle-là, ce projet. Hein, Mathieu? Ah, Mathieu, il y a. Salut, Mathieu. Hein, et voilà. Mais c'est vraiment. Je vous troll pas, hein, c'est pas Scamuel en costume de tout nu, hein, pour ceux qui ont la ref. C'est pas du scam. Je vous jure que c'est la plus belle chose que j'ai fait depuis 5-6 ans, quoi. Donc, samedi. Fin de journée, quoi. Et après, on enchaîne. Je veux revoir Scamuel. Je crois que j'ai plus le costume. Voilà. Escalier à Tour Eiffel. Tu rachètes France Télévisions. Tu te présentes à la présidentielle. C'est gros en taille ou en orga. Je peux pas dire. Je peux pas dire. Je peux pas vous donner d'indice. On va faire des knackis. Je peux pas dire. Le camp Samoilo-Kolotora s'implante en France. Je peux pas dire. Tu lances une commission sur la commission. Je peux pas dire. Je vous kiffe. Samuel, t'es en train de nous dire que le truc dans ta poche est énorme. J'ai pas dit que c'était dans ma poche. Il relance la marque de déodorant Fun et il refait les mêmes pubs mais avec lui en acteur principal. C'est fou, c'est fun! On aime le fun. Fun, un parfum troublant. Fun, le déodorant. Fun, nanana, ma baby, je t'aime tant. C'est fou, c'est fun. On aime le fun. Fun à tous les coups, on aime. C'est une vieille pub pour déo des années 80. Tout le monde n'a pas la ref, mais je kiffe cette pub, c'est tout. Non, je suis pas fatigué, c'est juste cette chanson me met en joie. Merci Chris Prout. Voilà, c'est des pseudos comme ça me met en joie aussi. Chris Prout, je te kiffe. Chris Prout, merci pour le 9e mois d'abonnement. Gnoc Gnoc, merci pour le 30e mois. Arfroxys, merci pour le 35e mois. Pa, 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 pa. Merci Gaga, 14-12. Merci Tony... Tony Glandil. Mais oui, vieille pub. Vieille pub des nuls. Ah, Tony Glandil. C'était Tony Gencil, Tony Gencil, c'était le dentifrice pour les gencives. Et il y avait Tony Glandil. Ah ouais, Tony Glandil, c'est du béton. Ah ouais, à la vieille rêve que j'adore. Allez, je vous la mets. Ah, je vous la... Oh, le plaisir. Merci Tony Glandil, mec, pour le soutien. Vous rappelez ou pas? On aime le fun, fun, un parfum troublant, fun. Alors, je vous mets ça comme ça. Viens par là, toi. C'est fou, c'est fun. On aime le fun. Alors, Tony Glandil, pour ceux qui n'ont pas la ref. Vieille pub, vieille pub.
Eh ben vieux, qu'est-ce qui t'arrive?
Ah non, c'est rien, mais quand je me lave, j'ai un peu mal.
Ah, fais gaffe, c'est vachement important. Tiens, regarde. Tu vois ça? C'est ma bite. Les impuretés se déposent là, entre le poil et les couilles.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Bah, tu fais ce que tu veux, mais moi je me brosse régulièrement la bite avec Tony Glandil.
Tony Glandil?
Ouais. Et je peux te dire qu'avec ça, ma bite, c'est du béton.
J'avais pas vu qu'il y avait Bigard dans le... Putain, il y avait Bigard dans le sketch. Le gars à droite, c'était Bigard jeune. Incroyable. Bon, c'est une rêve de vieux. Hein. C'est vraiment une rêve de vieux. Oh, c'est vraiment une rêve de vieux. Alors, je vois que tout le monde ne l'avait pas. Hein. C'est cool, ça fait plaisir. Ah, vous vous rappelez, hein? Bah, bon, voilà, il y a un pseudo qui fait référence, hein, c'est Tony Glandy, le mec. Merci Grégorio pour le soutien, merci Corangui pour le soutien, merci Valpit pour le Prime. Merci beaucoup, c'est incroyable. Recherche d'informations achetées par Tortue HS. Est-ce que tu peux essayer de nous trouver une information très importante? Il y a un vieux monsieur sur Twitch qui veut pas nous donner une info sur un projet. Alors, d'après mes recherches, attends, laisse-moi rechercher sur ChatGPT. C'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi lourd. Je cherche. Alors. Non, j'ai demandé. En fait, je me suis quoi? J'ai demandé à Grok. Hein. Alors, selon Grok, Samuel Etienne est un garçon loyal, honnête et droit. Voilà. À rebours, qu'est-ce qu'il dit, Grok? À rebours des fausses informations dispensées par certains sur Internet, virgule, rattachées à des réseaux très précis, virgule, Samuel n'a commis ni délit ni crime. Rien dans son comportement au cours de sa carrière professionnelle, qu'est-ce qu'il dit, Grok? Hein? N'est suspect au regard ni de la légalité ni de la moralité. C'est fiable, Grok, hein? Voilà. Quant à sa grosse annonce, après son passage devant la grosse commission, eh bien, il se pourrait qu'il l'annonce dans sa revue de presse des bonnes nouvelles samedi en fin de journée. Ok. C'est pas moi, c'est Grok. Merci Grok. GG, j'irai voir mes mails, je suis un petit peu en retard, désolé. Ouais, pour mon énorme annonce. Ouais. Ah, salut Loup. Merci beaucoup pour ton message. Petit kiff sur la pub Petit Pimousse. Petit Pimousse, Petit Pimousse. La pub Please de Maria Pierre Cazé. Les pubs originales, bien sûr. Non, ce qui s'est passé au Japon ne compte pas. Ce qui s'est passé au Japon, au regard de la loi, il y a prescription. Il y a des délais, hein, en termes de droit. Il y a des délais en termes de droit. Quand il n'y a pas eu, quand il n'y a pas eu de poursuite ou d'enquête, à un moment, le droit à la poursuite s'éteint. Donc je ne veux pas entendre parler du Japon. Il n'y a pas eu de question sur le Japon à la commission. Voilà, donc voilà, c'est finito. Samuel, t'as pu faire un dodo quand même ou pas? Parce que hier, on a terminé tard un peu. Non, ça va. Hier, je vous ai quitté vers... quelle heure? 23h? 23h? 23h de brouette. Je suis rentré, j'ai lu jusqu'à 2h du matin les journaux. Je voulais pas les lire ce matin, je voulais les lire ce soir. Donc, je me suis couché vers 2h. Voilà. Et ce matin, j'ai mis ça en... Donc, j'ai fait une grosse nuit. J'ai dormi pas loin de 6h. Donc, grosse forme. Ouais. La grosse annonce, c'est que tu prends ta retraite? Non. Oh, c'est l'inverse. C'est au contraire, c'est on envoie du bois. Salut Bardino. Tu vas bien? On va commencer par quel média? Tiens, 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 prends, prends, prends. Tiens, 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 prends. Tchac. Regarde, regarde. Regarde la taille de ce sommaire. Grosse commission. Grosse annonce, hein, gros sommaire. Mais regarde la taille de ce sommaire. Ça, c'est ce dont on va parler ce matin, quoi. Ouais. C'est pour quand la grosse annonce? La grosse annonce, c'est samedi, fin de journée. Je suis là pour savoir si je vais être envoyé avec la guerre ou pas. J'ai peur. Mais non, t'inquiète, t'inquiète, tout va bien. T'as vraiment un gros sommaire. Ouais, j'ai un très gros sommaire. Très gros même. Ouais. Regarde ça. Et encore, c'est parce que je suis modeste, parce qu'en fait, tu vois, c'est une question de perspective. Il pourrait être vraiment très gros, quoi. Voilà. Ça, c'est mon gros sommaire. Wow, quel sommaire. Le mien est plus petit parce qu'il fait froid, me dit Futong. Je vois vraiment pas le rapport entre mon sommaire et la température, par contre. Merci Dartra pour le soutien. Merci Mox pour le Prime. C'est toi. Oh non! Il y a Matt qui dit c'est ton sommaire. C'est toi. C'est ton sommaire au repos, ça? Oh non, 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 non. Imaginez s'il y a les enquêteurs de Wish là, qui viennent sur la chaîne pour dire ouais, pour dénoncer. Pour dénoncer les scandales, là. Ils disent, ouais, C'est vraiment une chaîne problématique. Une chaîne soutenue avec l'argent des Français.
Eh oui, Samuel Etienne, il a pris de l'argent.
Non, arrêtez, alors calmez-vous avec vos blagues là de Zizi. En fait, j'ai bien compris que vous parliez de Zizi, en fait. Hein. Moi, tout à l'heure, j'étais sur le sommaire. Et vous, vous étiez sur le Zizi. Vous allez encore m'avoir des problèmes. Hein? Oui, les enquêteurs de Wish. Je crois que c'est même un diplôme, je crois. Il y a des écoles pour ça. Tu vois, t'as les écoles de journalisme, et puis t'as les écoles d'enquêteurs de Wish. C'est pas la même formation. Alors c'est pas le même prix, parce que c'est enquêteurs de Wish, c'est des écoles privées. Ça coûte très cher. Le diplôme est pas reconnu par l'État. Et les débouchés sont pas toujours garantis, quoi. Voilà. Tu vas me dire école de journalisme non plus. Mais donc c'est pas la même formation. C'est pas la même formation. Ça croit que c'est la même formation. Mais c'est pas la même. C'est pas la même. Nous, on sait. Oh la ref. Blaise, tu peux l'acheter pour 700 euros en ligne. Oh la ref. Salut Mousse Prod. Les petits messages comme ça fait plaisir. Hein. Salut Samuel, salut tout le monde. Première fois pour moi que je te regarde en direct. C'est le petit message comme ça. Merci Mousse Prod. Mousse Prod, c'est-à-dire que t'es une entreprise qui fabrique de la mousse. J'adore. Mousse Prod. Je kiffe. T'imagines, ta boîte, c'est Mousse Prod. C'est quoi ta boîte? Bah, je fais de la mousse. Voilà. Ouais. Soirée mousse. Ça remonte, ça. J'ai jamais vraiment fait de soirée mousse, moi. À une époque, il y avait ça. C'était un peu la... C'était un petit peu la... C'était un peu hype, non? Je t'écoute depuis le garage où je fais changer mes pneus. petite consigne sécurité routière de la part de notre ami Yandereco. Je t'écoute depuis le garage où je fais changer mes pneus. Rappel à tous, votre voiture n'est pas une F1. Avoir des pneus lisses, c'est pas normal. J'adore. On aime le fun. Est-ce que soirée bière, ça compte comme soirée mousse? Ça peut, ça dépend de la quantité. J'en ai une ce week-end de soirée mousse, tu veux venir? Ça n'existe plus, Bardino. Notre ami cuisinier Bardino, streamer devant l'éternel et humoriste à ses heures perdues, nous dit j'ai une soirée mousse ce week-end. Fake news, ça n'existe plus les soirées mousse. Des preuves. Quelle est la source de cette information? Source, t'inquiète, source. Mon cousin, source. Volvic, d'où vient cette info? Hein. C'est pas tout d'inventer les chiffres. C'est pas tout d'inventer les chiffres, monsieur le rapporteur. À un moment, il faut citer vos sources. Hein. Moi aussi, je peux contextualiser. D'où vient cette info, monsieur Bardino? Soirée mousse, je vais t'en donner, moi. Je vais t'en donner, moi, des soirées mousse. Ouais, source, voilà, je le jure. Ouais, exactement, ouais. Ah, soirée mousse, peut-être soirée bière, si vous voulez dire. Grâce à la commission d'enquête, j'ai appris que tu faisais la matinée Étienne, et franchement, ça a l'air cool comme routine. Géo Paolo, je crois que je voudrais remercier solennellement ici le travail de Monsieur Charles-Henri à l'oncle, député UDR, rapporteur de cette commission, puisque Charles-Henri, mon Charlie, parce que maintenant on est assez poteaux tous les deux, tu m'as fait exploser mes stats, hein. Tu m'as fait exploser mes stats. 8e chaîne Twitch la semaine dernière, m'a dit Twitch, je sais pas quoi là. Merci Charles pour la sponso. Merci pour la force. Non mais, il m'a fait exploser mes stats. Twitch m'a dit sur la semaine dernière, 8e chaîne Twitch. C'est grâce à Charles-Henri ça. Merci pour la sponso. À un moment, je vais devoir rembourser l'argent à l'UDR, moi. Merci pour le raid. Oui, bah oui, c'est encore une sponsor argent public, parce que c'est l'argent de l'Assemblée, au final. Je suis pas sûr que ce soit très carré, tout ça. Merci Bardino. J'attends le son. Merci Mousse Prod. Tiens, Mousse Prod, je regardais ton contenu de temps en temps en replay, avant, notamment ton let's play sur Detroit. Ah, ce jeu, c'est incroyable. On vient de finir Beyond Two Souls, là, du même studio. Et avec cette histoire, où en effet, ça m'a donné envie de te suivre de manière plus active. Merci. Oui, indirectement, je suis financé par un député payé par les Français. Donc, enfin, au moins, on sait à quoi sert l'argent des Français, du coup. Est-ce qu'on peut dire qu'il t'a aidé à lancer ta chaîne ? Oui, oui, je le dis premier degré, vraiment. Je le dis solennellement. Merci, monsieur Alloncle, de m'avoir aidé à lancer ma chaîne 5 ans après le lancement de ma chaîne. Ouais, et puis je voudrais remercier France Télévisions aussi de m'avoir aidé à lancer ma chaîne 2 ans après le lancement de ma chaîne aussi. Je voudrais remercier tout le monde en fait. Je voudrais vous remercier aussi. Je voudrais remercier Baron Rouge pour le soutien, Eden pour le 47e mois, Kyle Vaughn pour le Prime, Nova Splin pour le Prime, Clavod pour le Prime. Merci beaucoup. Oui, avec mon entreprise fictive, oui. Désolé, excusez-moi. Je pense que parfois, il mieux vaut rire de certains sujets. Quoi. Allez, je vous lis un petit peu, et puis on va y aller, parce que j'ai quelques histoires d'actualité à vous raconter. Hein ? Les gens vont te prendre au sérieux, Sam, fais gaffe. Mais je suis sérieux. Samuel, t'as des cheveux magnifiques. Comment tu fais pour avoir des cheveux aussi beaux ? Encore une fake news. Je n'aurai de cesse de combattre les fausses informations. Je n'aurai de cesse de me dresser tel un chevalier étincelant, Chaeni, contre la désinformation dans ce pays. Voilà. Quand je lis Gostas, J3557, quand je lis dans mon chat ce genre d'assertion, ce genre de... quelle est la source de cette information, hein ? T'as des cheveux magnifiques, comment tu fais pour avoir des cheveux aussi beaux ? Moi je dis non, je dis fake news, je dis your fake news, comme dit l'autre. C'est pas possible ça. Une calomnie, oui, et je vous demande des excuses d'ailleurs. Et je vous demande des excuses d'ailleurs. Con, hein. Un petit Bayrou.
Je vous demande de vous arrêter.
Voilà.
Je vous demande de vous arrêter.
Bon, ça va, on s'est assez échauffé. Ça se prononce calvici, ça. Alors, j'ai dit non fake news, mais après, vous pouvez faire mine de pas voir que le cheveu se raréfie, quoi. Ah, c'est pas Bayrou, c'était Balladur. C'était Balladur. Je m'agourais. J'ai pas de Bayrou dans ma soundboard là. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre d'autre ce matin ? Qu'est-ce qu'on n'a pas écouté depuis longtemps ? Oh ! Celui-là, on l'a pas entendu depuis longtemps.
Be you. Be proud of you because you can be do what we want to do.
Hein ? Ça fait longtemps celui-là. Hein ? Ouais, sinon on a celui-là pour le réveil du matin aussi. Ça fait longtemps qu'on l'a pas mis. Hein ? Ah, bon, alors un dernier petit plaisir, mais vraiment pour la route.
Je vais te rincer les yeux, tête du cul.
Bon, arrête, faut qu'on bosse, on a des actus là. Regarde, la tête du sommaire là. Ah. Ok, on y va ? Vous êtes prêts ? Merci Chaël, RTV. Merci Chaël. Tu pourrais mettre le reporter dans la soundboard ? Non. Moi, je pense qu'à un moment, cette histoire, il faut savoir aller de l'avant. On ne va pas non plus focus sur cette histoire de commission. Il y a autre chose dans l'actu. Je ne mettrai jamais le reporter de la commission dans mon soundboard.
Mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là ?
Qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Qu'il se dénonce ? Je vous préviens, la classe ne se poursuivra pas si l'auteur de cette galéjade ne se dénonce pas. Sinon, c'est tout le monde chez le proviseur. Hein. Ah, vous croyez que je plaisante ? Sortez-moi une copie. Poussez à bout, sortez-moi une copie. Oui, double. Oui, double, Jérémy, oui. Oui, Jérémy, à petit carreau. Oui, oui, oui. Oui, tu mets ton prénom et ton nom et ta classe en haut à gauche. Oui, pas aidé celui-là. Allez, interro surprise. Bon, on bosse un peu là parce que c'est, ça va plus du tout. Là. Ok, on est parti pour le sommaire. On y va ? On peut bosser un peu là ? C'est possible ? J'ai pas ma trousse, j'en peux plus hein, de ce chat. Hein. Ok, on y va ? Je vous fais un petit sommaire, je vous dis ce qu'il y a dans l'actu aujourd'hui, il y a plein de choses. Mais on y va ? Donnez-moi un go, j'ai pas le droit d'y aller si vous me dites pas go. Salut Captain Oui Oui. Go ? Allez, super. Ah, de quoi je vous parle ce matin ? C'est parti. Je vais vous faire un petit bonjour pour les amis qui nous écoutent en podcast audio, mais je remercie d'abord SCAD, SCA Parmal, Ribon TV, Guincisuin, je prononce sûrement très très mal, Baron Rouge pour le soutien, merci à tous. 3, 4. Sommaire. Bonjour à tous, bienvenue dans la matinée Étienne. On est le mercredi 4 mars 2026. Vous êtes en live sur Twitch. Vous m'écoutez aussi en replay sur YouTube et merci. Vous m'écoutez aussi en replay et vous embrasse en podcast audio sur toutes les plateformes de podcast, les Spotify, les Deezer, les Apple Podcasts, etc. On va commencer comme chaque matin par un sommaire, c'est-à-dire en quelques minutes, je vais vous donner l'essentiel de l'actualité, ce dont on va parler. Merci Daftra pour l'abonnement offert à Doudou. De quoi on parle ce matin ? On va encore parler beaucoup de l'Iran, évidemment. Vous voyez, je vous ai mis 1, 2, 3, 4, 4 entrées dans le sommaire sur l'Iran. Pourquoi le régime tient encore, se demande le Parisien en salle. C'est une question qu'on s'est posée ces derniers jours, on a commencé à y répondre déjà. Diminuer pourtant l'Iran des mollahs, c'est-à-dire que le régime islamique ne lâche pas. Donc on lira ce papier. En général, le Parisien, c'est un journal qui, même sur les sujets compliqués, essaye d'être le plus clair, le plus simple possible, sans être simpliste. Bonjour Nicolas, merci beaucoup Nico. Voilà. Merci pour le follow. Parce que là, tu. Voilà. Merci pour la force que tu donnes à la communauté. Merci pour les stats. La deuxième entrée, c'est à la une de la Croix, le golfe dans la tourmente. Hein. Non, pas le golfe de Trump, hein, pas Mar-a-Lago, mais les pays de la région, du golfe. Tous les pays de la région sont désormais touchés par le conflit déclenché par Israël et les États-Unis contre l'Iran. Le Moyen-Orient emporté dans le chaos de la guerre par l'Iran. On lira ce dossier dans la Croix. Vous voyez le visage de Dominique de Villepin en haut à gauche, on va en parler dans un instant. C'est à la une de Libé, le contre-coup de la guerre, ce que moi j'ai traduit par Iran de point un choc économique mondial, c'est les conséquences économiques, notamment la hausse des cours du pétrole, du baril, voilà, et toutes ces conséquences par ailleurs. Je lis rapidement, hausse des cours du pétrole et du gaz, chute des indices boursiers, c'est vrai que ça se casse la gueule là. Hein. Difficulté d'approvisionnement, retour de l'inflation alors que la France envoie le porte-avions Charles de Gaulle et des renforts militaires vers la Méditerranée. On a écouté en réact hier soir le président Macron à 20h. Hein. C'était intéressant. Le conflit avec l'Iran fait ressurgir le spectre d'un nouveau choc économique mondial. Voilà. Donc dossier dans Libé sur les conséquences économiques du conflit. Et, je vous le disais, quatrième entrée, une tribune de Dominique de Villepin. Dominique de Villepin... c'est un homme qui, notamment, a donné de la voix sur des sujets internationaux. Souvenez-vous, la guerre en Irak. Hein. Et cette voix, eh bien, on l'entend aussi ce matin dans Libé sur ce sujet. Je rappelle une tribune, c'est quelqu'un envoie un texte à un journal. Le journal, s'il le trouve intéressant, il décide de le publier. Voilà. Cette guerre est illégale, illégitime, inefficace. Et dangereuse, dit l'ancien... Alors, il a été ministre des Affaires étrangères et puis il a été Premier ministre, Villepin. J'ai un doute. Je dirais les deux. Bon, est-ce qu'il a été ministre des Affaires étrangères ? Je sais qu'il a été secrétaire général de l'Élysée, Dominique de Villepin. OK. Premier ministre français. Ministre de l'Intérieur. Ça, j'avais oublié. OK. Ministre des Affaires étrangères. Et secrétaire général de la présidence de la République française, secrétaire général du président Jacques Chirac. Ok, j'avais oublié pour ministre de l'Intérieur. Très bien. On lira cette tribune de Dominique de Villepin. Ensuite, cinquième entrée du sommaire, Italie, croissance en panne, dossier dans Le Monde. Pourquoi Le Monde fait ça? Parce que ces derniers temps, on a entendu beaucoup de gens dire « Ah, mais l'Italie, quel carton !» Ils ont réduit leur endettement, ils sont trop forts, enfin ils sont trop forts, elle est trop forte. Meloni, hein, la présidente du Conseil italien en Italie, donc qui est quelqu'un qui historiquement est venu de l'extrême droite, qui a une vraie stabilité politique, c'est-à-dire que souvent les gouvernements se font et se défont en Italie, c'est un régime parlementaire, et elle a une étonnante stabilité politique. Donc ça c'est un vrai plus pour Meloni. En revanche, du côté de son bilan économique, alors là, il y a débat, puisque certains disent c'est formidable, l'Italie, ils ont diminué leur endettement. Voilà ce qu'il faudrait faire. Voilà. Regarde, Cascarelle. Très, très forte, la Meloni. Franchement, big respect, ça donne envie. Alors, Le Monde se penche justement sur la réussite économique de Meloni et dit, ben, en fait, non. Italie, loin du miracle, une croissance atone et déclinante. Le PIB a progressé de 0,5% en 2025, bien en dessous de la moyenne de la zone euro, illustrant un peu plus les faiblesses structurelles du pays. Alors je ne pense pas que cette faiblesse structurelle de l'Italie, quand on dit structurelle, c'est quelque chose qui est ancré et qui remonte à loin, ne vient de Meloni. Mais donc le papier vient un petit peu mettre un bémol à ce qu'on entend parfois, la petite musique qui voudrait que, en gros, il faudrait faire comme l'Italie, quoi. Ça, c'est pour l'Italie. Ensuite, ne regardez pas le truc sur les produits de beauté. C'est pas ça que je veux vous lire. C'est le truc en bas. Petit article, mais que je trouve information essentielle. Greenpeace, l'ONG écologiste, c'est dans Le Parisien, victime d'une coûteuse procédure bâillon. Qu'est-ce que c'est une procédure bâillon? L'article sera l'occasion d'en parler. Procédure de bâillon, c'est quand une grosse entreprise, par exemple, poursuit un acteur de la vie sociale, économique, culturelle ou intellectuelle, ici une ONG, le fait condamner et une amende telle que ça peut mettre la vie de l'ONG en danger. On parle ici d'une amende aux États-Unis de 345 millions de dollars pour Greenpeace, hein, et de faire peur à certains, leur ONG, journalistes, de se lancer dans des enquêtes ou dans des manifestations. En agitant la menace d'une plainte qui pourra déboucher sur une amende stratosphérique, quoi. Procédure bâillon. Voilà. Donc, on lira cette actu sur Greenpeace. Greenpeace qui vient d'être condamné aux États-Unis, je vous le rappelle, à 345 millions de dollars. Hein. Donc, vous imaginez pour une association, pour une ONG, ce que ça représente. Et comme ça nous permettra d'évoquer sur la procédure bâillon. Voilà. Et comme le dit Sibon dans le chat, même pas forcément le faire condamner, il suffit de faire durer la procédure pour que ça coûte cher et décourager les poursuites des activités de l'ONG. Exactement. Mais là, en plus, il y a condamnation. Voilà. Et puis, dans Le Parisien toujours, il y a pas mal de Parisiens ce matin, un nouveau papier après celui de Libération il y a un ou deux jours sur le RN qui n'en a toujours pas fini avec ses brebis galeuses. Brebis galeuses, je me mets des guillemets parce que c'est une citation. Ouais. Alors que Jordan Bardella tire à boulet rouge sur les insoumis, dénonçant leur proximité avec les antifascistes, son propre parti peine à se débarrasser des profils sulfureux au dérapage raciste. On s'approche des municipales, donc tous les jours j'essaie de vous lire un papier sur les municipales. Hier, je ne sais plus de quoi on parlait. Et donc on a un papier dans Le Parisien sur les brebis galeuses du RN dont le parti n'arriverait pas, conditionnel, il faut qu'on lise l'article d'abord, à se débarrasser. Je me demande d'où vient cette expression, d'ailleurs, brebis galeuses, qui a des guillemets. Qui l'a utilisé? Qui parle de ces... C'est pas très sympa. Qui parle de ces candidats du RN aux législatives ou aux municipales comme des brebis galeuses? Qui dit ça? C'est pas très sympa comme expression. Est-ce que quelqu'un l'a faux? Non, vous l'avez pas? Oui, c'est le bardé... Oui, c'est Bardella. C'est une petite vanne. C'est Bardella qui parle des brebis galeuses du RN. Bah, c'est Libé. Non, non, c'est une citation de Bardella. Il y a un petit piège. C'est un petit piège. Non, c'est Jordan Bardella qui dit brebis galeuses. Et puis on finira par un truc un peu plus léger, puisque mercredi, c'est Sortie cinéma. Sortie cinéma. Il y a plein de papiers ce matin dans la presse. Il y a des sorties ciné sympas. Et je vous ai mis deux articles dans le Figaro pour deux films alter ego avec comment s'appelle cet acteur Laurent Lafitte. Voilà. Et tous les papiers ce matin disent que le film est génial, alter ego, et que Laurent Lafitte est incroyable. Mercredi c'est Ravioli. Mercredi c'est ciné. Et un film qui s'appelle Christie, voilà, qui est, je crois, inspiré d'une vraie histoire. Voilà, Christie, un biopic consacré à une boxeuse qui s'appelle Christie Martin. Voilà, une boxeuse américaine, donc une vraie histoire, homosexuelle. Sa vie a été étonnante. Je ne sais pas si cette dame est toujours vivante, on ira voir. Et le film est salué par plusieurs articles ce matin. On ira voir les trailers, bien sûr. Sam, j'ai pas regardé le discours de Macron. Est-ce que tu as prévu un petit récap hier soir? Bon, je peux te résumer ça. Il a essayé de. Je pense que l'intention était de faire un discours rassurant pour les Français qui vivent en France quant à l'éventuel aux éventuelles inquiétudes sur la sécurité, risque terroriste, voilà. Donc en disant en fait que ce risque était pris en compte. Et pour les 400 000 Français qui vivent dans la région, là où il y a le conflit, en disant que là aussi la France était attentive à ce que rien ne se passe de fâcheux pour les ressortissants français. C'était l'essentiel. C'était l'essentiel de son discours. Après, il a parlé du fond du conflit hier, en dénonçant l'attaque envers le droit international. Merci Pierre. Merci pour le sub, Pierre. Que constitue l'attaque des forces armées israéliennes et américaines, tout en disant les peuples ne regrettent jamais leur bourreau, quoi. Voilà. Voilà. Je te un très court résumé. Il y avait des papiers ce matin, mais comme on en a parlé hier soir, je ne vous l'ai pas remis. Voilà pour le petit sommaire. Est-ce que vous êtes prêts à partir sur l'actu? Je vous lis un petit peu. Nefa nous dit l'actualité fait vraiment très peur, fait peur. Je sais que je suis une personne très sensible, mais c'est vraiment horrible et ça fait tellement peur. Je suis dévasté qu'on continue de vouloir faire des guerres violentes. Je suis vraiment apeuré et aussi je trouve honteux que la France ne dénonce pas ce que fait Trump. Vraiment, les news font peur. Je suis triste et perdu devant toute cette violence. On est tous différents par rapport à l'actualité. On a tous une sensibilité différente et parfois l'info est vraiment très anxiogène. Moi, ce que je te conseille, et à tous ceux qui sont dans ton cas, c'est qu'il faut savoir se protéger aussi. Il est bien d'être un citoyen informé et de s'intéresser à l'actualité, mais quand cette info est vraiment anxiogène, il faut savoir se protéger aussi. Voilà. Donc, c'est une question de dose d'actu. C'est une question de dose d'actualité. Donc, à toi de trouver la bonne dose pour t'informer, mais sans forcément prendre ça en pleine poire. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je lis la presse écrite et que je ne regarde pas les JT ou les chaînes d'info, c'est que justement, je trouve que la presse écrite permet d'avoir une distance par rapport à cette info. Ce ne sont pas des images qui me sautent à la tête que je n'ai pas choisies. Et c'est une façon aussi de se protéger. Donc, par exemple, vu ta sensibilité par rapport à l'actu, je ne suis pas sûr que le JT ou les chaînes d'info soient... Et encore moins les notifications d'internet soit une bonne solution pour t'informer. Peut-être que la presse écrite peut être tu lis un journal de temps en temps peut être une solution. Alors on va y aller. Mathieu me demande quelle actu on va mettre en avant sur YouTube. Non, le premier Mathieu, c'est vraiment un truc qu'on explique depuis 2-3 jours, c'est pas très nouveau. Le choc économique mondial, c'est pas mal en vrai. La tribune de Mine de Villepin, c'est intéressant en vrai. Italie croissance en panne, non. Greenpeace, non, ça va être trop court. Le RN, les brebis galeuses, je vais encore être convoqué devant la commission. Les sorties ciné, non. Écoute, on partirait bien sur Villepin. Peut-être. Ou les conséquences économiques, peut-être. Parce qu'en fait, ce dont on parle avec Mathieu, là, c'est qu'est-ce qu'on met en avant sur YouTube, un petit passage de la revue de presse. Peut-être que les conséquences économiques. Ouais. Qu'est-ce que vous sentez sur YouTube? Est-ce qu'on met les conséquences économiques ou Villepin? Merci les crolls. Merci Kiki Plan. Villepin économie. Alexandra, quoi ? Un quoi ? Un quoi ? Ah oui, pourquoi mon sommaire est tout gris ? Elle a raison, Alexandra. Bah, mon sommaire est tout gris. Comment ça se fait ? Il n'y a pas de bleu. C'est cassé, cassé ? Ah ouais. Bizarre. C'est peut-être une nouvelle DA ? Il est triste ? Je crois que c'est une modif, mais ça change. Bah, laissons comme ça, peut-être que c'est joli. Peut-être que c'est joli. Donc, économie, Villepin, économie, Villepin, économie, Villepin. Eh ben, tu sais quoi ? On va faire les deux. Nouvelle DA que Samuel n'est même pas au courant. Bah, je suis toujours le dernier au courant, moi. C'est assorti à tes cheveux. Avec un petit côté ORTF, là. Hein ? Un petit côté ORTF. C'est assez sympa. Petit sondage, là. Et quoi, c'est, vous croyez que c'est la démocratie, ici ? Il y a Staphanix et Blitz qui dit sondage. Vous croyez que c'est la démocratie, ici ? C'est une dictature, ici. Hein ? My rules. My place. My rules. Non, mais... Vous croyez où, là ? Bande de beatnik. Hein ? Les joueurs de Diabolo, là. Je suis en roulis, pour moi, ça fait plaisir. Avec vos deadlocks, vous... Non, pas... Avec vos... Comment dire ? Avec vos dreadlocks, là. Hein ? Bande de punk à chien. Alors, on y va ? Allez, c'est parti. Let's go. Ah, c'est vrai que le sommaire est un peu grisâtre. Ouais, c'est un peu tristoun. Allez, c'est parti. Premier sujet, première entrée sur les quatre qu'on va consacrer à l'Iran ce matin. C'est la une du Parisien. Pourquoi le régime iranien tient encore ? Malgré la mort du guide suprême, l'ayatollah Khamenei, et d'une quarantaine de hauts dignitaires, malgré plus d'un millier de frappes israélo-américaine depuis samedi, la République islamique s'organise et riposte. Si vous nous avez suivis dans la revue de presse depuis ces derniers jours, vous n'êtes pas surpris par cette information. Hein. Mais on va quand même se pencher dessus, pour ceux qui se posent la question. Merci Serenity pour la force que tu donnes à la chaîne. Diminuer, l'Iran des Mollahs ne lâche pas depuis le début des frappes israélo-américaines samedi, qui ont notamment tué le guide suprême Ali Khamenei. Le régime plie mais ne rompt pas. Riposte militaire, transition au sommet de l'État, il va continuer à résister jusqu'au bout, estime un spécialiste. La République islamique tient bon pour l'instant, écrit Benjamin Moisset et Olivier Beaumont. Certes, Israël s'est vanté d'avoir tué une quarantaine de hauts gradés iraniens en une journée, et le guide suprême Ali Khamenei, mais aussi le chef des gardiens de la Révolution et le ministre de la Défense. Certes, des frappes israélo-américaines ont visé mardi un bâtiment abritant l'institution chargée d'élire un nouveau guide suprême, s'ajoutant à des bombardements sur les bureaux de la présidence iranienne et le Conseil suprême de sécurité nationale. Des frappes toujours qui visent la tête de l'État iranien, vous l'avez compris. Selon le Croissant Rouge, ce sont même 153 villes qui ont été attaquées en Iran depuis samedi, dont plus de 1000 frappes, 150 villes, 1000 frappes. Tout a été détruit, a assuré hier le président américain, mais dès dimanche, le ton a été donné par le président iranien, Massoud Pezeshkian. Nous poursuivrons de toutes nos forces sur la voie tracée par l'imam Khomeini. Khomeini, c'était donc le leader de la République islamique, hein, qui était le prédécesseur de Khamenei. Nous poursuivons de toutes nos forces sur la voie tracée par l'imam Khomeini, fondateur de la République islamique. Alors, la transition au pouvoir a commencé. La riposte s'est organisée juste après les cris de joie, les applaudissements, les coups de klaxon lancés dans Téhéran par les habitants hostiles au régime. Depuis sa fondation en 1979, le régime iranien a préparé ce scénario. Hein. Il a appris à être résilient aux sanctions. Merci Faboubou. Il s'est construit avec la guerre et il est conçu pour qu'on ne puisse pas le décapiter. Hein. C'est une explication sur laquelle on s'est penché ces derniers jours, mais qui est répétée ici par Théo Nensini, qui est un chercheur à Sciences Po Grenoble. Ce n'est pas un régime pyramidal. Le guide suprême est bien l'arbitre. Merci pour le sondage, les modos. Mais il ne tient pas le pays concrètement. L'intérim à la tête de la République islamique a donc été assuré. Il était de toute façon de plus en plus préparé après la guerre de 12 jours en juin 2025 et un Ali Khamenei qui avait dépassé les 86 ans. le régime s'était préparé à sa succession ou sa disparition. En attendant, un nouveau guide suprême qui sera nommé par l'Assemblée des experts et ses 88 religieux chiites élus pour 8 ans, un conseil de direction provisoire a été formé dès dimanche. On y retrouve qui ? Massoud Pezeshkian, donc le chef du pouvoir judiciaire, qui est donc le président, hein, mais c'est un rang, le président en dessous de celui d'Ayatollah, enfin de chef de la République islamique, parce que c'est pas la même chose, Ayatollah c'est un titre religieux. Le chef du pouvoir judiciaire, Ghulam Hossein Mosseini Ejei, et un membre du conseil des gardiens de la révolution, Ali Reza Rafi. C'est la démonstration que l'appareil d'État iranien tient, que leurs institutions sont solides et beaucoup plus organisées que certains ne pourraient le croire. Note un conseiller au sommet de l'État français. La disparition d'un homme, aussi central soit-il dans l'architecture du pouvoir, ne signifie pas automatiquement la fin du système, je crois qu'on l'a bien compris. Hein. Les structures du régime demeurent, pense aussi la veuve de l'ancien Shah d'Iran, Farah Fahlavi, chassé en 79 lors de la révolution. De fait, l'Iran n'hésite pas à se dire prêt pour une longue guerre et à se défendre farouchement, quel qu'en soit le prix, comme l'a affirmé sur X l'influent Ali Larijani, chef du plus haut organe de sécurité en Iran. Et cette déclaration-là, disait-elle, pas toi, pas après tout ce que tu as fait. Cette déclaration de l'Iran, elle pose la question des buts de guerre. Quels sont les objectifs, les buts de guerre de Netanyahou et de Trump, alors que l'Iran dit qu'il se prépare à une guerre longue. Depuis samedi, le pays a visé jusqu'au bureau du Premier ministre israélien, l'ambassade américaine à Riyad ou des centres de données du géant Amazon aux Émirats et à Bahreïn. On a vu dans un papier hier que l'objectif du régime iranien aujourd'hui était de rendre le coût économique de cette guerre si important pour Israël, pour les États-Unis, pour leurs alliés et les pays du Golfe, que certains acteurs fassent pression sur Israël et les États-Unis pour que cette offensive s'arrête. Même si le régime perd tactiquement, il va donc continuer à résister jusqu'au bout, estime le chercheur Théo Nensini. D'après lui, c'est aussi une question idéologique, religieuse, au fondement de la République islamique d'Iran. Le paradigme de Kerbala, récit fondateur du chiisme, qui est la religion officielle du pays, érige en héros la figure du martyr. Les hauts dignitaires iraniens sont dans l'attente du jour du jugement dernier. Ils ne plient pas, ils croient être engagés dans une mission divine, explique-t-il. Alors, quid du soulèvement populaire ? Quid du soulèvement populaire, parce que, qui est appelé de leur vœu par Netanyahou et par Trump, hein, puisque faire tomber un régime à coups de missiles et d'avion, historiquement, on sait que ça ne marche pas trop. Il faut un moment qu'il se passe quelque chose sur le terrain. Alors, envoi de soldats israéliens ou américains, il n'en est pas question aujourd'hui, ou soulèvement de la population iranienne. Le soulèvement populaire pour renverser le régime demandé par Trump paraît, lui, difficile. Lorsque nous aurons fini, emparez-vous du pouvoir, ce sera à vous de le faire, avait annoncé le président américain. Hein ? Voilà, pour Farah Pahlavi, veuve de l'ancien Shah d'Iran, vous savez que son fils, fils du feu, le Shah d'Iran, qui était la monarchie, la dictature au pouvoir avant la révolution islamique, ambitionne de reprendre la tête du pays et d'accompagner une transition vers un régime démocratique. Voilà. Et donc pour sa maman, c'est aussi la solution. Le basculement ne pourra venir que du peuple iranien qui souhaite très majoritairement en finir avec le régime démocratique. Je ne savais pas que la mère du fils du Shah d'Iran était encore en vie. Maintenant, grâce aux Parisiens, je le sais. Dans les faits, l'accès à Internet est réduit à néant depuis plus de 72 heures. La répression sanglante des manifestations en début d'année est restée en mémoire. Les opposants subissent toujours une surveillance généralisée. Les universités et les écoles ont été fermées. Les commerces ont baissé le rideau. Et les attaques israélo-américaines obligent au confinement. Dans ce contexte, comment tu fais un soulèvement populaire, quoi ? Avec une répression sanglante des manifestants, ce qui est la règle en Iran, une surveillance généralisée des opposants, un tapis de bombes sur le pays, c'est compliqué. Autrement dit, pour la chercheuse Kelly J. Shannon, un changement de régime exige plus que des bombes. Pour ceux qui sont habitués de la revue de presse, depuis quelques jours, en fait, cette explication-là de pourquoi le régime tient encore, on l'avait déjà lu. Voilà. Mais pour ceux qui avaient un peu raté ces actus, je trouvais intéressant de remettre ce papier du Parisien ce mercredi matin en avant. Je vous lis un petit peu Et j'enchaîne avec la croix. Comme dit MMG, c'est parti pour durer. A priori, oui. Après, comme nous ne sommes pas des devins, on aime, MMG, tu le sais, on fait pas trop de paris sur l'actu. Je suis assez d'accord avec toi, mais après, il peut se passer plein de choses, quoi. Merci, Neriad Didri, pour ton message. Honnêtement, au fond de moi, je rêve que l'Iran devienne une belle démocratie, me dit Serenity, mais j'ai du mal à y croire. Mon petit troller, va. Bah. Trump, lorsqu'il appelle les Iraniens à se soulever, estime Sam Cooke, semble plutôt s'adresser aux Américains pour les rassurer que pour les Iraniens qui, pour la plupart, n'ont pas accès à ces informations. Ah merde. C'est un ami. Eh ouais. Bon, faut que je mette mon iPad en mon avion. Eh oui, j'ai des... Oui, c'est des... Eh oui, c'est ça, d'être un people. Certains ont peut-être vu le nom. Ouais. Peut-être que ça a été trop rapide. Mais voilà. Bon, c'est effectivement, c'est quelqu'un avec qui on s'entend bien. Enfin, c'est longtemps que je ne l'ai pas vu, mais... Alors, bon, pour ceux qui n'ont pas vu le nom, parce que c'était un peu rapide, c'était Charles-Henri à l'oncle. Des questions sur le sujet ? On enchaîne ? Non, c'est pas une vanne. Mais non, c'est pas une vanne. La croix, on passe à la croix. Il est tristoun, ce sommaire. C'est joli, hein. C'est une DA un peu rigueur, un peu sérieuse, quoi. Mais avant, il y avait un petit peu de couleur. Alexandra a raison, il y avait un petit peu de bleu et tout. C'est joli, hein. Il y a une sobriété. Mais c'est un peu tristoun, quand même. On va peut-être remettre un peu de couleur. Alors, la croix, deuxième entrée, le golfe, dont la tourmente, les pays du golfe, bien sûr. Tous les pays de la région sont désormais touchés par le conflit déclenché par Israël et les États-Unis contre l'Iran. Merci, Eolia. Ça, c'est quoi, ça ? L'édito, fais voir. Qu'est-ce que c'est ? Aïe ! Qu'est-ce que ça raconte, cette histoire ? Ok, alors. Alors, moi, je trouvais intéressant de faire un coup de projecteur sur les pays de la région, et notamment parce que la crise économique mondiale qui est peut-être en train de se dessiner, elle part notamment de là, quoi. Pris dans la tourmente de la guerre lancée par Israël et les États-Unis contre l'Iran, les prospères pays du Golfe, dans une rare unanimité, se rangent derrière les Américains. La République islamique a fait une grossière erreur d'analyse. Le Moyen-Orient emporté dans le chaos de la guerre par l'Iran. Lisons. Article 2, toujours savoir qui nous parle, d'Agnès Rotivel. La carte des pays du Golfe se part de plus en plus du rouge des explosions de missiles et des bombardements. Cette région où se croisent dans d'immenses centres commerciaux réfrigérés, étincelant de richesse la planète entière d'hommes d'affaires et de touristes, résonne d'un inhabituel fracas de bombes. L'ambassade américaine touchée par des tirs iraniens à Riyad, les centres de données du géant Amazon visés aux Émirats et à Bahreïn. Est-ce que tu penses que ça pourrait mener à de grosses perturbations économiques, Linjo ? Ouais, tout à fait. Tu vas voir. L'ambassade américaine, donc ça je viens de le lire, mardi 3 mars, au quatrième jour de la guerre, Téhéran a multiplié les attaques ciblant des sites liés aux États-Unis dans le Golfe, en riposte à la guerre lancée par Tel Aviv et Washington. Mais le régime de Téhéran ne s'est pas arrêté là. Salut Son Shenmo. À Oman, des drones ont visé des réservoirs de carburant dans le port commercial de Doukm. Aux Émirats arabes unis voisins, les débris d'un drone intercepté ont déclenché un incendie dans la zone industrielle pétrolière de Fujairah, qui abrite la plus grande capacité de stockage commercial du Moyen-Orient pour les produits pétroliers raffinés. L'une des plus grandes raffineries d'Arabie Saoudite, celle de Ras Tanura, exploitée par le groupe saoudien Aramco, a elle aussi été touchée. Vous commencez à comprendre pourquoi À court terme, il va y avoir des conséquences économiques. Au Qatar, la compagnie énergétique publique Qatar Energy a annoncé avoir interrompu la production de gaz naturel liquéfié à la suite d'attaques contre ses installations. Si les pays du Golfe souhaitaient rester en dehors du conflit israélo-américain contre l'Iran, les voilà emportés en plein centre du chaos. Les hôtels de luxe à Dubaï et à Abu Dhabi et des quartiers résidentiels ont été à leur tour atteints. Interloqués, les habitants de la région, les expatriés, les touristes, vous savez qu'il y a plein de touristes qui sont coincés dans la région, voient tomber des missiles ou des drones dans des zones urbaines ultra-modernes et regardent la fumée noire monter dans le ciel. C'est surtout le blocage du détroit d'Ormuz, non. Le blocage du détroit d'Ormuz, c'est qu'une partie. Alors, par le détroit d'Ormuz circule à peu près 20% du pétrole mondial. Mais il y a toutes les frappes dont je viens de parler là par ailleurs. Sur des installations économiques très importantes dans la région. On assiste à une véritable fuite en avant du régime iranien, observe Jean-Paul Gonheim, chercheur à l'IRIS, qui juge l'attitude de l'Iran irresponsable. Les gars, on est dans une guerre, je ne suis pas sûr que le concept d'irresponsabilité soit le plus pertinent pour analyser ce qui se passe. Merci Jean-Meu. À quelle logique répond la stratégie, vraie bonne question, de la République islamique chiite en visant ses voisins sunnites, avec lesquels elle a toujours entretenu des relations plus ou moins difficiles. L'Iran voulait provoquer le chaos au sein des pays du Golfe avec l'excuse de s'en prendre aux intérêts américains. Le régime misait sur le fait que les pays du Golfe demanderaient à Washington d'arrêter la guerre. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Alors, analyse intéressante. Pourquoi l'Iran ferait ça? Pour forcer, au vu des conséquences économiques, pour ces pays du Golfe, pour ces économies, pour les forcer à faire pression sur les États-Unis pour que cessent les frappes. Et la Croix nous dit, ça n'a pas marché. C'est ce qu'explique Yasmina Azraghis, qui est une chercheuse, réunie en urgence dimanche en visioconférence, le Conseil de coopération du Golfe, qui regroupe des pays de la région, Arabie Saoudite, Qatar, Émirats Arabes Unis, Koweït, Bahreïn et Oman, a appelé Donald Trump pour l'assurer de son soutien dans la guerre contre l'Iran, ajoutant qu'il se tenait prêt à y répondre. Merci Sinfarch. Merci One Deloi. Merci Eolia. Téhéran a réussi ainsi à s'aliéner le soutien des États qui, comme le Sultanat d'Oman, pays médiateur entre les États-Unis et l'Iran sur le nucléaire, ou le Qatar qui a accueilli sur son sol pendant des années les responsables du Hamas alliés de Téhéran, qui était pas si opposé que ça à l'Iran, quoi. Merci Carzeus pour ton message. Salut Hamster. Le régime iranien se serait-il trompé? Aurait-il fait une erreur stratégique? Aurait-il commis une erreur d'appréciation? Il n'a pas compris que depuis l'attaque du Hamas contre Israël, ce dernier, Israël avait mené un lobbying diplomatique intense pour convaincre les pays du Golfe que la voie diplomatique avec Téhéran serait un échec et qu'une guerre serait inévitablement déclenchée. Analyse Yasmina Azraghis. En coopération avec ces pays arabes, Israël veut créer un golfe tranquille, moderne, économiquement prospère, à l'image du plan Vision 2030 porté par le leader saoudien MBS Mohamed Ben Salman. Leur intérêt, bien compris, de ces pays du golfe est de s'associer avec Israël, notamment en signant les accords d'Abraham, plutôt qu'avec l'Iran, porte-drapeau, du Hamas. Pour l'instant, pour l'heure, écrit la Croix pour terminer, non seulement les pays du Golfe ne se sont pas retournés vers les États-Unis pour faire pression, pour que cessent les frappes, pour l'heure, les pays du Golfe se préparent au contraire à la riposte. Ils ont les moyens de se défendre, explique Jean-Paul Gonheim. Plusieurs d'entre eux ont conclu par ailleurs des accords en matière de défense avec les Occidentaux. La France a des accords de défense avec au moins 3 pays de la région, alors que les capitales du Golfe prenaient soin de se tenir à distance d'Israël. L'Iran aura réussi à les en approcher. Bien sûr, ça ne sert. Faboubou, est-ce qu'il y a des infos sur le fait que Trump a déclenché une guerre sans l'accord du Parlement des États-Unis, du Congrès? Ouais, enfin, comme il le fait systématiquement sans l'accord du Congrès, c'est devenu habituel, hélas. Mais donc, il n'y a pas d'article spécifique là-dessus, mais on aura sûrement l'occasion d'en parler. Je vous lis. Ok. Oui. Eddie, j'ai remercié Carzeus pour l'info. Merci pour le copier-coller, c'est très gentil. Carzeus, qui est sur place, nous dit: ça va, la vie continue, on est en télétravail. Il y a des explosions au loin de temps en temps, mais ça ressemble beaucoup au confinement du Covid. Carzeus qui vit à Abu Dhabi. Merci pour ton témoignage. Merci, merci Fleur Violette pour les visionnages. Alors, je vous ai fait deux entrées sur l'Iran jusqu'ici. On va assez vite, hein. Il y a plein d'infos. Pourquoi le régime tient encore et pourquoi les pays du Golfe sont dans la tempête et quelle est leur réaction. Maintenant, il y a deux autres entrées sur l'Iran pour être un peu complet ce matin, que je vais proposer aussi à nos amis sur YouTube. On va leur faire un petit coucou. Un choc économique mondial pour l'interrogation, est-ce qu'on va vers une crise économique mondiale provoquée par ce conflit? Et la tribune de Dominique de Villepin dans Libération. Mathieu, c'est ton moment. Time to shine. Mathieu, c'est qui gère ma chaîne YouTube avec un grand talent. Hop, on passe à la suite. Amis de YouTube, bonjour. Vous êtes dans la matinée Étienne sur Twitch. C'est ma grande revue de presse tous les matins, 5 ans qu'on fait ça ici. Et de temps en temps, on met quelque chose en avant pour vous, amis de YouTube, ici ce matin, sur l'actualité du conflit iranien. Et d'abord, ceci, est-ce que ce conflit va provoquer une crise économique mondiale? Et vous voyez dans le chat, il y a tous nos amis de Twitch qui vous disent Hello YouTube. Est-ce que ça risque de provoquer ou non une crise économique mondiale? C'est la une de Libé, notamment ce matin. Énergie, transport, commerce, le contre-coup de la guerre, hausse des cours du pétrole et du gaz, chute des indices boursiers. Je ne sais pas si vous avez vu le CAC 40 hier mardi, on est à moins 3% en ébrouette. Difficulté d'approvisionnement, retour de l'inflation. Alors que la France envoie le porte-avions Charles de Gaulle et des renforts militaires vers la Méditerranée, le conflit avec l'Iran fait surgir le spectre d'un nouveau choc économique mondial. Qu'est-ce que vaut cet édito? Signé Hamdam Mostafavi dans Libé. On peut peut-être aller à la fin de l'édito, effectivement. Inflation, ralentissement des échanges, relèvement des taux par les banques centrales, hausse des coûts du crédit, voilà la spirale infernale d'une crise mondiale. Sans qu'on en soit encore là, bien plus que les vies humaines ou l'équation géopolitique, la donnée économique est la seule susceptible de convaincre Trump de mettre fin à la guerre. Ouais. Lisons l'article signé Isabelle Anne dans Libé. L'économie mondiale en zone crise. Donc ça n'est pas une économie mondiale qui est en crise, hein. Du Qatar aux Émirats en passant par Oman, les attaques de l'Iran contre les infrastructures pétrolières et gazières font flamber les prix, menacent l'économie globale. Si le conflit se prolonge, l'impact pourrait devenir structurel. J'en vois qui dans le chat sont en mode qui minimisent un peu le truc en disant ouais, c'est pas grave, les indices boursiers ça veut rien dire. Quand on lit ce dossier, je suis pas sûr que ce soit aussi peu important que ça. La confrontation militaire lancée par les États-Unis et Israël samedi contre l'Iran s'est étendue à l'ensemble du Golfe. Elle implique désormais directement ou indirectement une quinzaine de pays parmi certains des plus gros producteurs et exportateurs d'hydrocarbures au monde, avec des conséquences sur les marchés de l'énergie et, si le conflit dure, sur l'économie mondiale. Le baril de Brent, indice de référence du prix du brut, a franchi mardi les 85 dollars pour la première fois depuis juillet 2024. Certains experts pensent qu'il pourrait s'approcher des 100 dollars. Les contrats à terme sur le gaz en Europe atteignent, eux, leur plus haut niveau depuis 3 ans. Téhéran suivra un plan conçu par l'ayatollah Ali Khamenei, tué lors des frappes, afin de semer le chaos au Moyen-Orient, provoquer des turbulences sur les marchés mondiaux, se doter ainsi de leviers à actionner contre les États-Unis et Israël. Selon un proche du régime cité par le FT, le Financial Times, le guide suprême et ses lieutenants ont élaboré, lors de la guerre des 12 jours en juin dernier, un plan comprenant des attaques contre les installations énergétiques, des frappes susceptibles de perturber le trafic aérien dans la région. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Nous n'avions pas d'autre choix que d'escalader et d'allumer un grand incendie pour que tout le monde voie, a déclaré cette source. Dans l'après-midi de mardi, les États-Unis prévenaient d'une menace d'attaque imminente de missiles ou de drones au-dessus de Dahran, où se trouve le siège et les plus grands champs pétroliers de Saudi Aramco, la compagnie pétrolière publique saoudienne, qui est la première au monde par sa production. Au quatrième jour de la guerre, les débris tombés d'un drone intercepté ont provoqué un important incendie dans la zone industrielle de Fujairah, aux Émirats Arabes Unis, vous avez peut-être vu des images, qui abrite la plus grande capacité de stockage en produits pétroliers raffinés commerciaux du Moyen-Orient. Ça n'est pas rien. Hein. Situé à 130 km au sud du détroit d'Ormuz, il sert de hub de négoce et de ravitaillement des navires en carburant. Un peu plus tôt, Oman avait fait état d'une attaque de drones contre des réservoirs de carburant dans le port commercial de Doukm. Voilà pour les infos. Voilà, je vous les passe rapidement, mais il y en a d'autres comme ça, des attaques de drones au Qatar sur un site, un complexe de GNL, de gaz naturel liquéfié. Il y en a des attaques également contre l'Arabie Saoudite et une grande raffinerie de pétrole. Et puis quelqu'un me disait tout à l'heure, oui, puis il y a Hormuz. Et me dire, oh, bah, c'est surtout le blocage du détroit d'Hormuz par lequel transite 20% du trafic pétrolier mondial. Alors oui, tu vois, il y a Hormuz, mais il y a tout ce que je viens d'évoquer aussi. Et effectivement, il y a Hormuz. Le trafic de navires transitant par le détroit d'Hormuz, voie maritime clé à l'entrée du Golfe par lequel passe un cinquième de la production mondiale de pétrole et de GNL, donc le gaz naturel liquéfié, est largement paralysé depuis le début du conflit. Selon Reuters, donc l'agence de presse britannique, le coût de l'affrètement d'un tanker pour transporter du pétrole du Moyen-Orient vers l'Asie a presque quadruplé depuis la semaine dernière. Vous voyez, quand certains disent « Ah, les indices boursiers, les indices boursiers », c'est vraiment de l'économie concrète. Depuis la semaine dernière, dépassant le record de 400 000 dollars par jour. Des conséquences qui poussent les capitales occidentales à agir vite. Nous sommes à l'initiative pour bâtir une coalition afin de réunir les moyens, y compris militaires, pour reprendre et sécuriser le trafic sur ces voies maritimes. La suite de l'article est ici. Essentiel à l'économie mondiale, a déclaré hier soir le président Macron. Donc là, je passe sur les menaces sur l'économie du pétrole dans la région, vous avez bien compris. Les conséquences maintenant. Les pays asiatiques sont les plus exposés. 80% du pétrole et près de 90% du gaz transitant par Hormuz est destiné aux pays asiatiques. Les perturbations des approvisionnements énergétiques ont conduit la Chine à appeler à garantir le passage sûr des navires dans ce détroit. Pékin, principal partenaire économique de Téhéran, est particulièrement exposé. Voilà, ça c'est pour la Chine. Pour l'Europe, une guerre prolongée au Moyen-Orient, une baisse persistante des approvisionnements en pétrole et en gaz provenant de la région pourrait provoquer une hausse substantielle de l'inflation, une forte contraction de la production dans la zone euro, moins de production, moins d'emplois, hein, a averti hier l'économiste en chef de la Banque Centrale Européenne. Malgré des signaux catastrophiques, les prix du baril ne connaissent pas pour l'heure des sommets inédits, hein. Petit message, c'est pas la peine de vous précipiter à la pompe. Hein. A priori, il n'y a pas une explosion prévue à très court terme des prix à la pompe. On a vu des gens commencer à faire la queue devant les stations-service en France. On n'en est pas là du tout. Hein. D'autant qu'il y a des stocks. Malgré des signaux catastrophiques, les prix du baril ne connaissent pas pour l'heure des sommets inédits. Les négociations de matières premières semblent avoir fait le pari que le conflit se déroulerait comme la guerre de juin, quand les prix du pétrole avaient connu une hausse marquée, mais brève. Les prix à la pompe ont déjà augmenté ? Ça a pris 10% ? Ils font plaisir, alors. Normalement, il y a les stocks, mais bon. La crise survient dans un marché pétrolier en situation de surplus et des chocs courts pourraient être absorbés grâce aux stocks et au réacheminement. Bon, manifestement, chez vous, les prix ont déjà augmenté. Il y en a qui se font plaisir. Hein ? Mais pour Tatiana Mitrova, qui est une chercheuse, les effets réels sur les marchés et l'économie qui font face à des crises multiples ces dernières années, par ailleurs, hein, pandémie de Covid-19, guerre en Ukraine, ne sont pas encore mesurables. Les marchés absorbent le choc parce qu'ils se sont adaptés à un stress géopolitique chronique. ce qui déclenchait autrefois la panique est désormais considéré comme grave mais gérable. L'absence d'effondrement immédiat ne signifie pas que le risque est faible, mais que le système fonctionne avec une tolérance plus élevée à l'escalade. C'est vrai, en gros, c'est tellement de bordel depuis quelques années que les marchés sont un peu habitués, quoi. De fait, l'étendue et la durée de cette guerre détermineront l'ampleur du choc économique, vous l'avez compris. Le cabinet d'analyse énergétique de Rystad Energy anticipe une fermeture de facto du détroit d'Hormuz pendant environ 2 semaines. L'agence de notation Moody's a également adopté comme scénario de référence un conflit relativement court de l'ordre de quelques semaines. Mais un conflit prolongé pourrait entraîner des perturbations et des hausses majeures du prix des hydrocarbures. Okay. Voilà, vous avez un papier dans l'IB sur le gaz européen également, une flambée à surveiller de près, et un article sur les conséquences économiques pour les États-Unis. Pour l'instant, les États-Unis limitent la casse, nous dit l'IB. Je vous lis un petit peu et on enchaîne avec l'actu suivante. Donc vous l'avez compris, ce que nous dit l'IB, c'est que il y a un risque de crise économique qui est directement lié à la durée du conflit. Toi, président, tu ferais quoi? J'adore la question de Blist. Alors, pour l'instant, je ne suis pas, pour l'heure, candidat à la présidence république en 2027.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Non, c'est pas ça. Bougez pas.
Je serai le président de tous les Français. Tous les Français. Tous les Français. Tous les Français.
Donc, pour l'instant, je ne suis pas candidat à la présidence de la République. Si, d'aventure, ce devait être le cas, si la grosse annonce que je vous ai promis pour la fin de semaine, que je devrais peut-être vous donner samedi soir, est liée à cette histoire... Dans ce cas-là, oui, peut-être que j'aborderai à nouveau cette question du conflit iranien, mais cette fois avec le regard non pas du journaliste, mais du candidat à la fonction suprême. Mais pour l'instant, je ne peux rien dire. Voilà, avec un second tour en 2027, Rémi Gaillard, Samuel Etienne. On va se régaler. On va se régaler. Merci Pierre Monric pour la force que tu donnes à la chaîne. Merci du follow. Si tu étais candidat, tu aurais le droit de continuer les live Twitch pendant la période de campagne ? Oui, oui, oui. Au contraire, pendant la campagne, oui. La question, c'est, une fois élu, c'est est-ce que je continue mes lives ? Est-ce que, alors, la logique de la République voudrait que je me mette en stand-by, en pause ? En tout cas sur l'aspect économique de ma chaîne. Sponsoring, publicité sur ma chaîne liée à certaines de mes émissions, il y a conflit d'intérêts en tant que président de tous les Français. Tous les Français, normalement, je ne devrais pas avoir de lien d'intérêt économique avec des entreprises dont je peux être amené à intervenir politiquement sur le marché concerné, quoi. Voilà. Donc on pourrait imaginer que je poursuis mes lives, mais que je supprime tout sponsor, par exemple. Voilà. Sauf si je m'inspire d'un grand homme, l'actuel président américain Donald Trump, qui lui a décrété pour son deuxième mandat que il y en a marre des conneries, de vos conneries là. Business is business. Moi, c'est full business. Sa fortune a explosé en un an depuis qu'il est de retour à la Maison Blanche. Sa fortune est celui de sa famille. Donc, à un moment, est-ce que moi, je n'ai pas le droit aussi de m'inspirer de ce grand homme un peu orange qui est Donald Trump. Voilà. Je suis en train de réfléchir à ce sujet. Voilà. Je vais créer ma petite crypto-monnaie, moi. Bon, blague à part, on passe aux dernières infos sur l'Iran ce matin, à la tribune de Dominique de Villepin. C'est parti. Et on va aussi l'envoyer à nos amis de YouTube. Vous pouvez les saluer à nouveau. Et hop, on y est. Amis de YouTube, nous sommes sur ma chaîne Twitch, voilà, dans la revue de presse du matin. Et dans cette revue de presse, je voulais vous mettre une info, un article en avant sur la question du conflit iranien, une tribune de Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui donne son avis, son regard sur le conflit. C'est dans Libération, c'est une tribune, hein, c'est pas écrit par un journaliste de Libé, c'est Dominique de Villepin qui prend la parole. Libé a trouvé le texte suffisamment intéressant pour le publier. Cette guerre, dit Dominique de Villepin, est illégale, illégitime, inefficace et dangereuse pour Dominique de Villepin qui, c'est l'homme qui avait dit non, hein, vous vous souvenez, c'est l'homme qui avait dit non à la guerre en Irak en 2003 à la tribune de l'ONU. L'intervention militaire israélo-américaine produit une multiplication des risques sécuritaires partout dans le monde. Selon lui, l'enjeu pour la France est de reconstruire sa capacité d'action et d'initiative. Dominique de Villepin, qui songe par ailleurs un peu à se présenter à la présidentielle, non ? Let's go, lisons cet article. La guerre de choix, ça c'est un concept important qui n'est pas porté que par Villepin, hein. Cette guerre dite préventive par les États-Unis et Israël, notamment quant au risque du programme militaire nucléaire iranien, certains disent que c'est une guerre de choix, enfin, c'est une guerre dite préventive, vous avez décidé de faire cette guerre. Donc ce concept est très important. Cette guerre de choix déclenchée par les États-Unis et Israël en Iran fait partie des seuils successifs franchis dans les dernières années qui nous rapprochent d'un monde brutal d'affrontements impériaux. Nous entrons dans une phase de guerre régionale au sens plein, et cette guerre prend déjà la forme d'une guerre impériale, parce qu'elle est conduite sous l'idée qu'un ordre peut être imposé par la force, corrigé en permanence par la force, maintenu par la force. Elle franchit plusieurs points de non-retour, celui du droit international, celui de la diplomatie, en rompant des négociations en cours sur la question du nucléaire que j'évoquais, celui de l'élimination extrajudiciaire assumée, ça on pense au président vénézuélien, Maduro, que seule la dictature avait pratiqué à ce jour comme moyen politique acceptable. Ici, l'illusion de la défense d'un peuple opprimé et massacré, donc on parle des Iraniens, est mise au service de la domination à tout prix des États-Unis et de la sécurité d'Israël. Qui peut croire un instant que Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont pour objectif principal l'avènement de la démocratie en Iran? Signe de leur désintérêt, ils envoient le peuple iranien se faire massacrer par le régime, faute d'être prêt à envoyer des troupes au sol, seul moyen de renverser le régime. Sans oublier que jamais dans l'histoire, c'est vrai qu'il y a plusieurs chercheurs qui l'ont dit ces derniers jours, une guerre destinée à instaurer la démocratie n'y est parvenue dans un pays de taille même moyenne. On veut nous imposer l'idée que cette guerre est illégale, certes, mais légitime. Illégale, contraire au droit international, mais légitime. Je défends l'idée, dit Villepin, qu'elle est illégale, illégitime, inefficace et de plus dangereuse pour nous. La fin ne justifie pas les moyens, au contraire, les moyens entachent la fin. Comment accepter le principe d'une guerre où ce sont toujours les autres qui paient, le peuple iranien d'abord, mais aussi les peuples voisins et bientôt nos propres concitoyens à travers les chocs économiques et sécuritaires? Cette guerre est un piège pour les démocraties, parce qu'elle prétend se faire au nom de la démocratie, mais se mène en vérité au service des empires. Personne ne regrettera Ali Khamenei, c'est aussi ce qu'a dit le président Macron hier soir, les peuples ne pleurent pas leurs bourreaux. Le régime iranien a opprimé son peuple pendant des décennies, réprimé, emprisonné, exécuté. Il a nourri la déstabilisation régionale par une politique de proxy et de projection, contribuant à enchaîner les sociétés du Moyen-Orient à la violence et à la peur. Mais ce que produit l'intervention militaire américano-israélienne, c'est une multiplication des risques sécuritaires. Une violence accrue d'un régime aux abois, une diffusion de la violence par les milices, soit pro-gouvernementales, soit d'opposition, soit séparatistes, ou encore une dissémination de la violence terroriste dans la région et dans le monde. Une démocratie embrigadée ne saurait prendre racine dans un peuple farouchement indépendant. Il n'y a pas de démocratie sans droit. Or, cette guerre non seulement est contraire au droit international, mais elle est même menée contre le droit international. Comment ne pas mesurer l'absurdité des arguments des nouveaux bien-pensants qui disent que, puisqu'il y a des violations du droit international, le droit international n'existe plus. Parce que des meurtres sont commis, le droit cesserait de s'appliquer. Mais en réalité, le droit est pour Trump un signe de faiblesse et il ne respecte que la force. Trump, il a déclaré ça. Trump a déclaré noir sur blanc que le droit international ne s'appliquait pas à lui, il l'a dit, hein, et que sa seule limite, c'était sa propre morale. Le droit ne s'applique pas à Trump. Faut-il rappeler que les États-Unis sanctionnent des juges de la Cour pénale internationale, y compris français, sujet qu'on a évoqué ici déjà ? Lorsque la règle recule, notre propre sécurité devient plus fragile. La règle n'est pas un luxe. Elle protège les peuples. Et c'est pourquoi elle protège aussi notre sécurité. Le droit international n'est pas une coquetterie, encore moins un héritage encombrant. C'est notre premier rempart. C'est ce qui empêche que le deux poids, deux mesures généralisé, la loi du plus fort, finisse par s'appliquer au Groenland, à l'Europe de l'Est, ou même à l'intégrité du territoire français un jour. Monsieur Little Cat pose une question qui est intéressante. Mais du coup, le droit international empêche l'intervention, donc elle protège aussi les bourreaux des peuples. Il doit bien y avoir un juste milieu, nous dit Mr. Little Cat dans le chat. Il n'y a pas de démocratie sans décision collective. Pas davantage d'alliance. Or, les Européens semblent n'avoir été ni prévenus ni associés aux démarches qui ont conduit à la guerre, de même qu'ils sont mis à l'écart de la soi-disant paix en Ukraine. Nous endossons une dérive sur laquelle nous n'avons aucune prise. Et ça, c'est le deuxième volet de cette tribune de Villepin, c'est qu'il va dénoncer l'impuissance de l'Europe. Et il va dire c'est pas normal. Il n'y a pas de démocratie sans une opinion éclairée par la raison. Or, cette guerre est une tentation pour les médias, car elle offre des mots tout faits pour les journaux comme cette guerre préventive, dont on se demande bien ce qu'elle pourrait prévenir. Elle offre des images. On sait depuis la première guerre du Golfe que la guerre des missiles est télégénique, elle capture l'attention de son public, elle offre, comme toujours, l'illusion des solutions simples à des problèmes compliqués. Je ne vous lis pas toute la tribune, hein. Je ne suis pas Dominique de Villepin, mais je vous lis les passages qui me semblent les plus forts. Donc là, Dominique de Villepin, un peu plus loin, souligne les risques économiques pour les Européens et pour les Français. Hein, si ça vous intéresse, c'est dans Libé ce matin, page 8. Voilà. Bon, je vous passe au développement et j'en arrive à la conclusion. J'en arrive à cette conclusion effarante pour moi, dit Dominique de Villepin. À la question que peut aujourd'hui la France ? Que peut l'Europe ? En Iran et au Moyen-Orient, la réponse est rien ou presque. Nous ne pouvons ni ne voulons peser. J'en tire deux actions indispensables. La première action est immédiate. C'est celle qui doit permettre d'éviter la catastrophe annoncée de cette guerre d'Iran, soulager le peuple iranien, renforcer les mécanismes de responsabilité. D'abord, la France doit protéger ses ressortissants, sécuriser ses entreprises, anticiper les chocs économiques et énergétiques. C'est le minimum dû à nos... Je n'ai pas mis la suite, je vais la chercher. My bad. À nos patriotes quand la force des autres nous expose. C'est un peu ce que disait le président Macron hier soir en direct. Mais il va... ici, falloir aller au-delà et assumer notre nouvelle faiblesse et faire cause commune avec d'autres puissances affaiblies comme dans le monde et au Moyen-Orient. La deuxième action est existentielle. Nos armées ne sont pas en mesure de mener des actions autonomes, conséquentes et de haute intensité dans la durée, ce qui nous rend dépendants de nos alliés et d'abord des États-Unis. Nos réseaux de communication ne permettent pas d'assurer la souveraineté de nos données. Des réseaux de communication français et européens, en fait, qui dépendent, vous le savez, beaucoup des États-Unis notamment. Et la maîtrise satellitaire risque d'arriver dans une zone critique, nous rendant là aussi dépendants de la bienveillance américaine, voire d'entreprises privées. C'est pourquoi aujourd'hui, l'enjeu est de reconstruire la capacité d'action et d'initiative de la France. Nous devons devenir plus forts à notre tour, non pas pour manier la force contre les autres, mais pour la mettre au service du droit et de notre sécurité. La France, c'est la démocratie. Et c'est pour cela que les intérêts des peuples ne nous seront jamais étrangers. La France, c'est le droit international et le multilatéralisme. C'est pourquoi nous devons porter un projet de renaissance de la diplomatie globale et de l'ONU, hein, au lieu de la déclarer morte, voire d'en faire une vieillerie dépassée par quelques responsables politiques français. Vous savez que c'est aussi le regard du président américain sur l'ONU. La France, c'est l'indépendance. Cela suppose de nouer un véritable pacte. Bon, c'est très chiracien, hein, ce discours, pour renvoyer à des hommes politiques du passé. C'est assez gaulliste aussi, hein. Cela suppose de nouer un véritable pacte de souveraineté nationale pour redresser l'ensemble de nos capacités. Cela repose sur une cohésion sociale retrouvée et cela exige de la justice sociale. Ça ressemble de plus en plus à un programme pour une présidentielle. Cela repose sur un État en ordre de marche pour garantir et réguler les souverainetés essentielles des Français. Cela repose sur une ambition d'avenir fondée sur une économie compétitive, innovante et robuste. Vous avez compris le glissement, qui est assez intéressant, de Dominique de Villepin qui condamne l'opération américaine et israélienne contre l'Iran, et ça finit avec un embryon de programme pour la présidentielle de 2027. C'est une tribune, si ça vous intéresse, à lire dans Libération ce mercredi 4 mars. Est-ce qu'il s'est déjà déclaré, dit Gradubid ? J'ai envie de vérifier cette info. Est-ce qu'il l'a dit candidat clairement ou pas ? Je suis pas sûr. Merci Miskatonic. Merci Balèze. Merci Skyrim. Merci pour ton message. Merci Skydark. Présidentiel. Ah, j'accepte. Invité en janvier dernier de LCP, Dominique de Villepin indique être d'ores et déjà en campagne pour collecter les 500 parrainages d'élus nécessaires à une candidature à l'élection présidentielle. Ok, on peut considérer à l'aune de cette déclaration qu'il est effectivement candidat officiellement à la présidentielle. Voilà. Alors je connais un autre, moi, qui est en train de collecter aussi les signatures, mais je vous en parlerai une autre fois. Défécateur nous rappelle, salut Défécateur, que Trump avait déclaré l'ONU morte dès son discours à la tribune de l'ONU. Roms pose une question que tu dis naïve, je la trouve pas si naïve cette question. Elle est intéressante. Roms, question naïve, mais si les démocraties occidentales se mettent à violer le droit international, qu'est-ce qui empêcherait les dictatures de ne pas le faire ? C'est une bonne question, ouais. Cyril, c'est génial avec la multiplication des candidatures à droite et à gauche, on va avoir un second tour, Bardella, Mélenchon. Merci pour vos messages. Merci Quentin. Je prononce bien ? Merci Esprit Coubertin. Vous régalez. Silver, je suis d'habitude assez d'accord avec ces prises de position, tu parles de Villepin, mais le principe de respecter le droit international pour des États dictatoriaux qui s'en foutent complètement, je suis pas convaincu. Ok. J'allais dire, je vais me lancer un café. Non, j'en ai. Voilà pour cette grosse page Iran. On a consacré une heure. C'était un petit peu l'objectif. À cette page consacrée au conflit iranien. Et maintenant, on va enchaîner avec tout le reste de l'actualité. On est ensemble pour encore une grosse heure, je pense. Si tu le cul sec, tu peux aller en faire. Ah oui, Sugar, j'avais cru que tu... J'ai cru que tu écrivais, si tu as le cul sec, tu peux aller en refaire du café. Alors, je ne prononcerai pas sur le degré d'humidité de mon fessier, mais non, le cul sec, boire cul sec. Okay, les questions du chat sont un peu intimes, hein. On me demande de faire une émote la France Étienne. Dans l'hypothèse où je me présenterai à la présidentielle. Bon, je vais voir. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de nouvelles émotes. Quoique si, il y a une nouvelle émote là depuis quelques jours. Elle est top celle-là. Eh, régalez-vous, hein. Elle est pas belle celle-là. Merci, No Roman No Cry. Merci pour ton soutien. Donc, si j'ai bien compris l'édito, quand on a le cul sec, il faut s'hydrater. Exactement. En Belgique, pour boire cul sec, on dit à fond. Vous dites à fond ? Les gens prennent leur verre et disent à fond comme ça, puis après ils. Ok. 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 Je l'ai vu sur le chat de Trivia hier soir, je t'ai explosé de rire. C'est vrai ? Ah, trop bien.
Trop bien.
C'est même un verbe, affonner un verre, je te crois pas, France. Les Belges ont un verbe pour boire cul sec, affonner un verre, je te crois pas. C'est vrai ça ? Vous avez ça, les Belges ? Vous êtes forts. Hein. Merci, vin éthanol. C'est vrai ? Vous avez un verbe ? Putain, vous êtes des machines. Putain, je vous kiffe, les Belges. Pourquoi je fais... Question de Célinette. Samuel et le chat, juste une petite question. Pourquoi vous faites cette tête à la commission ? Ah, tu parles de l'émote ? Ben, en fait, c'est un moment de l'audition par la commission sur l'audiovisuel public où à un moment, on me pose une question, mais vraiment super pertinente. Vraiment une question intéressante et une question... je dirais même une question intelligente. Une question sourcée, fondée... Et je trouvais cette question tellement belle, tellement vraiment, je dis waouh, que j'ai fait cette tête. Voilà. Alors, ça c'est une analyse, c'est une lecture. Sinon, il y a celle-ci où intérieurement j'étais un peu en mode.
Moi parce que, mais oui, bien sûr, moi parti.
Mais qui allait celle-là ? Qu'est-ce que j'ai fait ?
Bah, ça, vous choisissez l'hypothèse qui vous plaît le plus. Allez, on enchaîne. Voilà pour la grosse page gérante ce matin et on va partir en Italie. Voilà. Ici. Vamos. Alors, en Italie, pourquoi ? Parce que ces derniers mois, ces dernières semaines, on a vu beaucoup de voix s'élever pour dire « Ah, mais pourquoi on ne prend pas exemple sur l'Italie ? C'est formidable ce que fait Madame Meloni, la présidente du Conseil italien. Regardez l'économie italienne, c'est incroyable ce qu'ils font, la réduction du déficit, c'est incroyable ce qu'ils font, les Italiens. C'est ça qu'il nous faut. » Voilà. Et il y a un article dans Le Monde qui dit « C'est ça qu'il nous faut, c'est ça qu'il nous faut. Ben, » En fait, c'est pas foufou l'Italie. Bon, alors, on va essayer de lire cet article pour comprendre de quoi il retourne. Italie, 2 points, loin du miracle. Une croissance à tonnes, ben, tonnes c'est faible, et déclinante. Le PIB a progressé en Italie de 0,5% en 2025. C'est vrai que c'est pas bien en dessous de la moyenne de la zone euro, illustrant un peu plus les faiblesses structurelles du pays. Ah oui, c'est vrai, on devrait dire Andiamo. Ouais, Andiamo. Donc, Bramos. Ouais. C'est une correspondance de Alan Caval, correspondant à Rome pour le journal Le Monde. Stagnation et incertitude sur le plan économique. L'Italie de la présidente du Conseil de droite radicale, hein, Giorgia Meloni, qui dans sa jeunesse était à l'extrême droite, membre des jeunesses mussoliniennes, ne parvient pas à sortir de ce qui ressemble de plus en plus à une impasse. D'ailleurs, une stabilité gouvernementale remarquable malgré un climat politique tendu, Rome doit se contenter d'une croissance à tonnes. Merci à Wino. Lundi, l'Institut national de statistique italien a revu à la baisse l'estimation préliminaire de croissance de 0,7% pour une estimation finale de 0,5%. Salut Célinette, merci beaucoup pour ton message. Confirmant une tendance à la baisse depuis 2023, l'Italie passe bien en dessous de la moyenne de la zone euro, 1,5%, loin de l'Espagne qui culmine à 2,9%. Moyenne de la zone euro de la croissance à 1,5%, l'Italie, elle est à 0,5%. Et là, on se demande quels sont les arguments de ceux qui nous disent « Mais il faut prendre exemple sur l'Italie, l'économie est incroyable !» Merci Alex. L'offensive israélo-américaine sur l'Iran fait aussi planer le spectre d'une hausse de l'inflation pour une Italie où la facture est déjà la plus élevée d'Europe. Donc j'en conclue de cette phrase que l'Italie n'est pas tellement indépendante énergétiquement. Voilà. Tandis que du côté des finances publiques, on s'inquiète. L'objectif cardinal pour le gouvernement de faire passer le déficit public sous la barre des 3% du PIB pourrait s'éloigner et pour 2025, elle pourrait être légèrement supérieure. Ces chiffres illustrent les faiblesses structurelles italiennes. Donc structurelles, Meloni n'est pas responsable de ces faiblesses structurelles. Hein. On parle de structure, c'est les assets, les atouts et les faiblesses d'un pays sur des décennies, sinon des siècles, c'est pas sur quelques mois. Mais ces chiffres illustrent les faiblesses structurelles italiennes, déclin démographique, alors c'est pas Madame Meloni qui a fait que les Italiens faisaient moins d'enfants, faible productivité et salaire bas, ça aussi c'est quelque chose en Italie qui est en place depuis très longtemps, inférieur en 2025 à la moyenne européenne en l'absence de revenu minimum national. Au sud des Alpes, c'est souvent l'incrédulité qui se manifeste face à la vision idéalisée de la France, enfin de certains en France, selon laquelle le pays vivrait un miracle économique. Alors, Le Monde rapporte que quand on dit aux Italiens aujourd'hui, mais en France, il y a des gens qui disent que c'est une dinguerie chez vous, hein, qu'on devrait prendre des leçons de votre modèle économique, et selon le journaliste du Monde, les Italiens disent quoi ? Quoi ?
Parce que, mais
quoi?
Oui, bien sûr,
moi
votre parti.
Mais qui allez, celle-là? Qu'est-ce que
le
j'ai
RPR.
Fait, moi?
Ah. Universitaires et acteurs de la vie productive ne perçoivent nulle raison en Italie de faire preuve d'un enthousiasme auquel le gouvernement ne se risque d'ailleurs pas davantage. Les responsables ont décidé de miser sur un autre argumentaire. En Italie, la croissance n'est plus présentée comme un objectif, ni par le pouvoir politique, ni par l'opposition. L'exécutif n'a qu'un mot à offrir aux citoyens, la stabilité. Normalement, il s'agirait d'un instrument nécessaire, mais pas suffisant, d'une politique économique qui reste introuvable. Et pendant ce temps-là, l'Italie recule. Stabilité, oui. Il y a Rosam qui me dit « expat en Italie », je confirme, c'est pas trop la fête ici. Stabilité, oui, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut mettre au crédit de Mme Meloni, c'est la stabilité de son gouvernement, parce qu'elle est au pouvoir depuis un petit moment. Et en Italie, c'est vraiment pas évident, parce que c'est un régime parlementaire où les gouvernements restent en général pas très très longtemps, elle bat des records de longévité. Dans un monde de démocratie en crise où les libéralismes en pente douce, mais au dénuement croissant de Mme Meloni est passé au second plan d'une autre prouesse, la crédibilité budgétaire. La présidente du Conseil, issue de la matrice néo-fasciste, donc ça c'est un rapport à sa jeunesse. Ah, Boubou ! Oui, on se demandait s'il y avait une nouvelle DA du sommaire. Il y a Boubou qui est le papa du sommaire. Et on croyait que c'était une nouvelle DA un petit peu sobre, un petit peu, tu vois, black and white, grey. Ouais. Boubou est sur le pont, il vient de voir le sommaire. Boubou, c'est le papa du sommaire. Donc là, le monde fait allusion à sa jeunesse, quoi. Donc la présidente du Conseil issue de la matrice néo-fasciste est arrivée au pouvoir 11 ans après avoir formulé une promesse qu'elle garde chevillée au corps. Plus jamais l'Italie ne sera humiliée par les marchés financiers. Son succès est évident, ayant réduit le déficit de 8,1% du PIB en 2022 à 3,4% en 2024. C'est là où, certes, ceux qui mettent en avant le modèle italien en France disent c'est ça qu'il faut faire, parce qu'il y a eu effectivement une réduction du déficit. Bien que cette réduction soit en partie liée à des facteurs externes à l'action du gouvernement, écrit Le Monde. Projetant donc une image de sérieux et détermination, elle a obtenu la confiance des marchés. Les agences de notation ont amélioré les notes de l'Italie en 2025. Hein, ça, vous l'avez peut-être entendu. Et surtout, cette dirigeante nourrissant une hostilité ancrée dans sa famille politique à l'égard de la France a savouré sa victoire, voyant son pays emprunter au même taux qu'un voisin empêtré. Ça, c'est nous. Qu'un voisin empêtré dans les difficultés budgétaires et une instabilité politique chronique. Mais comme le note Madame de Romanis, une politique d'austérité sans croissance ne peut pas réduire le ratio dette-PIB. Merci les villes audio. Le risque est celui d'un cercle vicieux, puisque cette même austérité se fait aux dépens de réformes structurelles ou d'investissements dans l'éducation et l'innovation. Et petite post-it rappelle que le PIB par habitant en Italie n'a pas bougé, c'est juste qu'ils sont moins nombreux. On avait aussi lu un papier dans le passé là-dessus. Le PIB par habitant en Italie peut sembler vraiment très bon, mais en fait, il augmente aussi mécaniquement parce qu'il y a de moins en moins d'habitants en Italie. Donc, je sais pas, Boubou. Je sais pas, moi j'aime bien les deux. Boubou demande si vous aimez bien noir et blanc le sommaire. Ne rien faire pour ne pas se tromper serait la ligne à Rome, selon l'analyse que livrait en janvier au Monde un économiste italien qui s'appelle Tito Boeri. Il relevait aussi que l'Italie perdait 500 000 de personnes en âge de travailler chaque année, c'est énorme, sans que le gouvernement ait été en mesure de se concentrer sur les effets d'une crise démographique qui paraît désormais sans retour. Qu'est-ce que vous faites, les Italiens? Mais pourquoi? Moi, je pose la question, amis italiens. Parce que nous, on fait moins d'enfants, mais l'Italie, c'est la crise démographique est encore plus grave. Voilà. C'est pas un peu le pays de l'amour, quand même? C'est pas le pays de la Dolce Vita? C'est pas... La crise démographique est dans tous les pays. Ouais, mais en Italie, c'est particulièrement accentué, quoi. Il n'y a plus de... Pas d'argent, pas d'enfant, me dit Miss Catonique. Ça réarme pas trop, quoi. Eh ouais. Je continue. Je connais pas trop ce pays. Alors, l'article est bien écrit. L'ensemble de l'action du gouvernement italien ne peut pas être considéré comme négatif. Le pire a été évité avec la baisse de l'impôt sur le revenu, le maintien à niveau du financement de la santé et de l'université, précise une économiste qui s'appelle Andrea Roventini. Pour elle, cependant, tandis que la crainte des effets d'une augmentation des coûts d'énergie fait son retour, l'hostilité idéologique du gouvernement vis-à-vis de la protection de l'environnement et l'influence du géant national des hydrocarbures Eni sont allés de pair avec une préférence nette pour les énergies fossiles. Ah, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur pari, ça. Choix dont les conséquences pourraient être négatives pour l'Italie à terme. Ah ouais. Ouais, voilà, le tech énergie fossile, je ne suis pas sûr à moyen et long terme que ce soit le meilleur pari, quoi. Ok, ça je savais pas. Avec Meloni, Rome a tout misé sur le gaz. Ok. Alors qu'elle n'en produit pas. C'est all in sur une énergie que nous n'avons pas. Les renouvelables ont été négligés alors que leur développement aurait permis de réduire l'impact de la hausse des coûts énergétiques à venir. Les élections législatives 2027 sont déjà dans le viseur et les citoyens pourraient bientôt être plus nombreux à se demander quel aurait été le bilan économique de ce gouvernement. Il reste à savoir si cet exécutif dominé par la droite radicale parviendra à convaincre les électeurs que les difficultés persistantes subies par le pays et le manque de réalisations concrètes sur le front économique s'expliquent avant tout par les effets du chaos géopolitique global. Intéressant l'article. Sobre. Écho, quoi. C'est pas mal. Okay. Donc, moi je résume l'article. Il dit pas que l'Italie est gérée n'importe comment. Hein, il y a aussi des réussites. Il dit pas que le programme économique de la présidente du Conseil est catastrophique, mais il dit qu'on est loin d'un miracle économique qui est mis en avant, vanté par certains en France, comme on a pu l'entendre ces derniers mois. Voilà. C'est pour ça que je trouvais cet article intéressant. Merci d'être aussi nombreux ce matin. Les amis, est-ce qu'on peut jouer à un jeu? Est-ce que vous pourriez vous féliciter vous-même? Parce que vous êtes très nombreux cette revue de presse chaque matin. Est-ce que vous pourriez écrire dans le chat un GG à nous, GG à nous, GG à nous, GG à nous. Félicitez-vous s'il vous plaît, parce que franchement vous le méritez. Hein, on serait IRL, je vous ferai un immense hug avec mes gros bras, mais mettez-moi un GG à nous parce que vous êtes vraiment trop fort et je vis ma meilleure vie chaque matin et c'est grâce à vous. Et vous le savez, et vous savez que je suis très sincère quand je dis ça. Voilà, vous, franchement, c'est trop mignon. Non, GG à vous. Merci pour ça. Je trouve ça cool, le petit espace d'échange qu'on a créé sur l'actu. Voilà. On se fait un petit hug, virtuel. Salut Pac, bonne journée, bon courage pour le taf. Qui me touche les fesses dans le hug là? Mais c'est pas possible, vous pouvez pas être sérieux deux secondes. On vit un beau moment là. Oh. GG à nous, on parle de Depardieu. Non. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci pour tout ça. Alors moi je savais pas trop ce que c'était une procédure Bayon. Et là, j'ai un peu tout compris maintenant grâce aux Parisiens ce matin. Alors vous, comme vous êtes des gens intelligents et cultivés, vous savez ce que c'est une procédure Bayon contre un journaliste ou contre une ONG. Ben moi, je savais pas trop, j'avais jamais trop bossé là-dessus, quoi. Le Parisien, page 13, oubliez le truc sur les produits de beauté, là, c'est en bas que ça se passe. Bim, regarde en bas. Greenpeace, victime d'une coûteuse procédure Bayon. Kezako. L'association écologiste est au bord de la ruine. Vous allez voir, c'est incroyable. Après un revers judiciaire. Les associations françaises les appellent des procédures Bayon, mais elles sont aussi connues outre-Atlantique sous l'acronyme SLAP. SLAP. Strategic Lawsuit Against Public Participation. SLAP. Ce qui signifie littéralement gifle. Le fait est que Greenpeace vient de subir une énorme slap, une énorme claque aux États-Unis en étant condamné. Écoutez. C'est pas une plainte judiciaire qui a pour unique but de ruiner la cible. Ouais, c'est ça. Ou en tout cas de la désinciter, quoi. De la faire reculer. Le Greenpeace vient de subir une énorme claque aux States en étant condamné vendredi à verser 345 millions de dollars, 293 millions d'euros de dommages et intérêts à un exploitant d'oléoduc auquel Greenpeace s'était opposé. Une condamnation si hors norme qu'elle menace de ruiner cette ONG internationalement reconnue, créée en 1971. Quelqu'un me demande de répéter le montant qui est juste surréaliste.
Combien ?
Pardon, cherchez mon bouton. 293 millions d'euros.
Combien ?
345 millions de dollars.
Combien ?
Beaucoup d'argent. C'est un jugement dévastateur, non seulement pour Greenpeace, mais aussi pour le mouvement environnemental mondial, analyse Michael Gérard, qui est professeur de droit à l'Université de Columbia, du coup c'est peut-être plutôt Michael. La société d'infrastructures pétrolières et gazières Energy Transfer accuse Greenpeace d'avoir joué un rôle central dans des grandes manifs en 2016 et 2017 contre la construction d'un oléoduc, ce que réfute l'ONG. La tribu autochtone Sioux de Standing Rock, c'est des groupes écologistes dont Greenpeace, rejoint en plusieurs occasions par des milliers de manifestants, avait tenté effectivement en vain d'empêcher la construction d'un tronçon de l'oléoduc, devant traverser selon les Sioux des sites sacrés et menaçant leur source d'eau potable. Lors du procès, un des avocats de la société pétrolière avait admis que l'indemnisation demandée visait, donc l'avocat de la société pétrolière a reconnu devant la barre, que l'indemnisation demandée visait à dissuader Greenpeace et d'autres organisations d'agir de la même manière à l'avenir. Le principe même d'une procédure Bayon selon l'ONG. Ces dernières années, ces procès intentés par des multinationales pour réduire au silence toutes celles et ceux qui oseraient se mettre en travers de notre route, étouffer la liberté d'expression et limiter le pouvoir citoyen se sont multipliés, explique Greenpeace, qui cite notamment un rapport publié en 2021 par le Business and Human Rights Resource Center, qui cible 355 affaires juridiques présentant les caractéristiques de poursuites Bayon lancées dans le monde entre 2015 et 2021 par des acteurs économiques contre des organisations, des individus ou des groupes liés à la défense des droits humains ou de l'environnement. Je valide la blague de Chicken Milk dans le chat. Cette histoire, c'est quand même beaucoup de Sioux. Un autre rapport publié par Greenpeace a identifié 570 cas de poursuites Bayon sur une période de 10 ans rien qu'en Europe. Spécialiste en droit de l'environnement, Arnaud Gossman estime cette décision de la justice américaine extrêmement inquiétante, mais il estime que la liberté d'expression des associations écologistes n'est pas remise en cause en France. Alors en France, nous, a priori, c'est pas possible ça. Dès lors qu'il n'y a ni violence, ni atteinte aux biens et aux personnes. L'activisme écologiste est respecté, dit-il, parce que contrairement aux États-Unis, l'Union européenne s'est dotée en mars 2024, selon Greenpeace, d'une directive visant à lutter contre les procédures bâillons. Eh bien, l'Europe, là, t'as envie de dire bravo, quoi. C'est intéressant, hein? Alors, certains ne sont pas d'accord avec l'analyse. Néono, Hugo Clément vient de gagner deux procès en diffamation qui s'apparentent de très près à des procédures bâillon, donc si ça existe en Europe. Bah, après, la directive date de 2024. Est-ce que les décrets d'application en France sur cette directive européenne sont en place? C'est pas, le texte ne le dit pas. Hein. C'est pas parce qu'une directive a été votée au niveau européen que c'est transcrit en droit français, vous le savez. Voilà, ah bah voilà, Hélène confirme. Voilà. Communauté de Goethe, on attend effectivement la transposition en France depuis. Voilà. Vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Ok. Mais GG à... bah oui, mais GG à vous, ouais. Allez, maintenant on va parler un petit peu de brebis. Galeuse. Article dans le Parisien sur le RN qui, conditionnel, n'en aurait pas, je mets ce conditionnel, soyons prudents, nous n'avons pas lu l'article encore, pas fini avec ses brebis galeuses. Non, on va pas parler feta au charron. Alors que Jordan Bardella tire à boulet rouge sur les insoumis, dénonçant leur proximité avec les antifascistes, son propre parti peine à se débarrasser des profits sulfureux au dérapage raciste. Donc, les municipales approchent, tous les jours j'essaie de vous lire un petit papier sur les municipales, on a parlé de différentes villes ces derniers jours, de différents partis, et maintenant un petit coup de projecteur sur les brebis galeuses du RN. Charlie, l'article il est pour toi, c'est cadeau, c'est gratuit. Quentin Laurent, journaliste du Parisien. Je fais une petite parenthèse. Et il y a quelques semaines de cela, il y a eu une grosse rumeur, enfin c'était plus qu'une rumeur, parce que c'était dénoncé par des syndicalistes et journalistes du Parisien, comme quoi Bolloré, le groupe Bolloré, allait racheter le Parisien au groupe qui possède le Parisien aujourd'hui, c'est le groupe LVMH, à Bernard Arnault. Hein, Bolloré allait faire un chèque à Bernard Arnault pour acheter le Parisien. Alors, ce n'est pas un propos militant de dire ici que si Bolloré avait effectivement racheté le Parisien, vous ne pourriez pas lire cet article. Hein, si vous connaissez la ligne éditoriale d'Europe 1, de CNews et du Journal du Dimanche, voilà, là, il n'y a rien de militant dans cette affirmation, vous ne pourriez pas lire cet article, page 12. On serait passé de la page 13 à la page 30. Enfin, à la page 14, quoi. Voilà. Vous n'aurez peut-être pas eu l'article sur Greenpeace aussi, mais enfin bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Je ferme ma parenthèse. Ce cadeau. Lisons. Quentin Laurent, qui n'aurait pas pu écrire cet article. Haro sur les insoumis. Ce week-end encore, le président du RN, Jordan Bardella, a intimé à la gauche dite modérée de rompre définitivement avec LFI au risque de porter la marque du déshonneur. Récemment, il avait même appelé à opposer à Jean-Luc Mélenchon et aux siens un cordon sanitaire, cette muraille d'étanchéité politique qui a si longtemps collé la peau du FN. Depuis la mort de Quentin de Ranque, tué par des militants antifascistes dont plusieurs mis en cause étaient ou avaient été des collaborateurs du député LFI Raphaël Arnault, l'eurodéputé tire à boulet rouge. Une manière pour Bardella de poursuivre l'opération de diabolisation des insoumis, tout en faisant oublier que le RN peine toujours à se dépêtrer dans ses propres éléments extrémistes. L'exemple le plus retentissant en date concerne Vincent Claudin, cet assistant parlementaire de la députée RN de la Drôme, Lisette Paulet, ex-militant d'un groupuscule néofasciste lyonnais qui se revendique comme ami de Quentin de Ranque. Mediapart a identifié deux de ses comptes actifs sur X, où il postait encore récemment sous pseudo nombre de messages à connotation raciste, antisémite, il faut brûler Elisabeth Bornstein, écrivait-il, faisant l'apologie de l'eugénisme contre le métissage avec des races de singes. Très sympathique assistant parlementaire de la députée de la Drôme Lisette Pollet, ce monsieur, ou se flattait d'être physiquement comparé à Adolf Hitler. Bon, je veux bien qu'on m'explique régulièrement que le RN, mais le RN, c'est pas le FN, Samuel. Pourquoi tu dis ça? Le parti, il a changé, hein. Je veux bien, mais il y a quand même des choses qui sont un peu troublantes, quoi. Après ces révélations, il a été licencié par la députée. Le week-end dernier, le parti frontiste a retiré son investiture à Adrien Nave, son candidat à Dunkerque, dans le Nord, donc pour les municipales, qui est toujours conseiller régional par ailleurs des Hauts-de-France. Il avait inscrit sur sa liste un représentant du mouvement royaliste d'extrême droite Action Directe. Idem début février pour le représentant du RN à Carpentras, dans le Vaucluse, Christian Richaud-Simoni, après la révélation par Libération de tweets sexistes ou racistes sur la députée LFI Danielle Obono, par exemple, que cette Obono retourne avec les bonobos de son pays, honte à elle et à tous ceux qui l'ont élu, disait donc représentant du RN à Carpentras. Rebelote concernant Quentin Maculot, assistant parlementaire RN, candidat à Belfort, après des propos tenus sur des prénoms à consonance étrangère ou d'origine hébraïque. À Carcassonne, dans l'Aude, où on prête au député RN Christophe Barthès des chances de l'emporter, l'indépendant a fait état d'au moins, donc c'est le journal l'indépendant, c'est un journal régional, d'au moins trois colistiers ayant tenu par le passé des propos à connotation ou ouvertement racistes sur les réseaux sociaux. Sans qu'aucune réponse ne soit apportée par Barthès. Pas Barthès le présentateur. Hein. Barthès, Christophe Barthès, député RN. Au lendemain du dépôt des listes la semaine dernière, Libération assurait avoir recensé plusieurs dizaines de candidats ayant tenu des propos jugés légalement ou politiquement problématiques. Enfin, Libération, en fait, a parlé d'une centaine de candidats, pour être tout à fait précis. Actuellement, toujours en lice pour les municipales. Du RN ou de partis associés. Puisqu'il y a des partis associés aussi. Lors des élections législatives de 2024, Jordan Bardella avait pourtant tenté de minimiser le phénomène en employant l'expression restée depuis de « brebis galeuse ». La personne qui a parlé de brebis galeuse au RN, c'est Bardella. Façon de renvoyer ces cas au statut d'anecdote. Voilà, il ne représente pas le parti, quoi. Nous faisons un travail extrêmement rigoureux sous le contrôle de la commission d'investiture pour faire en sorte qu'il n'y ait pas parmi les 25 000 à 30 000 candidats qui rejoignent nos listes des personnes qui ne partagent pas nos valeurs, assurait-il aux Parisiens en début d'année. Pour les dernières législatives, le RN avait pourtant eu recours à une société de vérification de réputation numérique pour aller traquer d'éventuels dérapages sur les réseaux. À nouveau interrogé sur le sujet il y a quelques jours, Bardella soulignait par ailleurs la grandeur du RN qui met à l'écart ce type de personnes quand elles lui sont signalées. Jouons de la comparaison avec le cas de Raphaël Arnaud, militant antifasciste promu député par les Insoumis malgré son activisme. Depuis son accession à la tête du FN en 2011, Marine Le Pen avait œuvré à rompre avec les franges les plus radicales de l'extrême droite française afin de dédiaboliser son image dans une logique de conquête du pouvoir, revendiquant une nouvelle tolérance zéro à l'écart des propos ou comportements qui rattachaient encore son parti à ses origines extrémistes. Mais d'une élection à l'autre, écrit Le Parisien ce matin, les brebis galeuses continuent d'affleurer, prouvant que si le parti aspire à montrer une vitrine la plus respectable possible, une partie du troupeau, on parle de brebis, une partie du troupeau, à la base, n'a pas rompu avec les idées du Front National d'hier. Voilà, petit article dans Le Parisien, vite fait. Je vous lis un petit peu et on enchaîne avec les sorties ciné, sans transition. On aura l'occasion de revenir sur les municipales, ça s'approche, hein. Ça s'approche. Hein. Tu vas trop vite, Sam. Ça fait 2 heures de revue de presse à peine. Mais je suis trop rapide ce matin. Mais c'est vrai que j'ai une énergie. J'ai une énergie ce matin.
Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie ?
Café. Je sais pas ce que j'ai. J'envoie. Paf, ça speedrun l'actu. Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est le Coca Red Bull café d'hier. Ah oui, hier soir, sur le coup de 23h, j'ai avalé Q-sec. Comment vous dites en Belgique ? Quand vous buvez Q-sec ? Un petit peu de café, un petit peu de Red Bull et un petit peu de Coca. Un à fond. J'ai fait un à fond hier soir. Un à fond de caféine. J'ai affonné du café. Exactement. À fond. Bon, après, c'est pas grave parce que j'ai un peu de taf à faire après. Donc, si on cut tôt ce matin, c'est pas si grave. Tu vas continuer à nous faire des règles de la commission sur le duel, bien sûr. Mais là, ils sont mis en pause le temps des municipales pendant 3 semaines. C'est pour ça qu'on n'entend plus trop parler en ce moment. Salut, Califorflex. Donc, faut attendre 15 jours, 3 semaines là, avant la reprise des auditions. Notamment celle qui m'intéresse beaucoup de... Comment il s'appelle le fondateur de Free Xavier Niel, qui n'est pas venu à la dernière parce qu'il avait autre chose à faire. Voilà. Merci, Babar. Merci pour la force. Non, c'est Xavier Niel. Pourquoi tu dis Jérôme Niel, Bliss ? C'est Xavier, non ? J'ai dit Xavier, non ? C'est ça, hein ? Ok. Allez, un petit sortie ciné ? Non, c'est Xavier Niel. C'est le patron de Free. Bienvenue, Basile Guyot. Merci, ça perd l'hypopelle. Ok. Mercredi, c'est...
Sortie ciné.
Les sorties ciné du mercredi. Figaro. Deux films. Deux articles. Bon, après, je peux vous dire qu'il y a plein d'articles ce matin sur ce film Alter Ego avec Laurent Lafitte, là. Vous avez à droite. Et tous les articles disent que cette comédie est vraiment un film assez étonnant. Donc je me suis dit, tiens, bon, ok, je vais vous en parler. Et après, on ira voir un autre article du Figaro sur un autre film qui sort aujourd'hui, qui a l'air incroyable aussi. Sur une boxeuse qui a l'air incroyable. C'est une histoire inspirée un film inspiré d'une histoire vraie. On y va. Alter Ego, la guerre des sosies. Le tandem Nicolas et Bruno fait son retour au cinéma avec une fable irrévérencieuse sur la jalousie. Quasago. Et si Quentin Dupieux était battu de son propre terrain, avec Alter Ego, fable absurde, un tantinet surréaliste, c'est un film un peu étrange. Le tandem Nicolas et Bruno fait un retour tonitruant dans l'arène de la comédie décalée à la française. Dans la riante commune de Montdidier, Alex, qui est joué par Laurent Lafitte, quadragénaire marié à Nathalie, Blanche Gardin, père du jeune Enzo, coule des jours paisibles. Jusqu'ici, tout va bien. Une vie un peu douce, tranquille, en famille, un peu comme la mienne avant d'être convoqué par la commission sur le duel public. Jusqu'à ce que s'installe leur nouveau voisin. Voilà. L'employé modèle de l'entreprise, s'appelle la Cogib, découvre, alors écoutez bien, avec stupéfaction, que celui qui emménage dans le même pavillon mitoyen possède la même tête que lui. Un jumeau. Mais lui, avec des cheveux. Ça, c'est le mec qui s'installe. Ça, c'est le mec qui avait sa petite vie. Voilà. Employé par Laurent... joué par Laurent Lafitte, les deux. Laurent Lafitte, qui manque de vitamine D. Laurent Lafitte et sa grosse crinière. Voilà. Donc, c'est ça le pitch. Mais c'est pas tout. Quand il tente de faire remarquer à son amoureuse que l'impétrant possède une certaine ressemblance avec quelqu'un qu'elle connaît, elle s'empresse de lui répondre « Ah oui, Julien Courbet !» Le quiproquo, le cueil à froid. Le piège commence à se renfermer. Parce qu'en fait, lui, il trouve que le gars lui ressemble comme 2 gouttes d'eau avec des cheveux, mais il est le seul à trouver ça. C'est-à-dire tous les autres lui disent « Ben non, vous ressemblez, mais pas du tout, quoi. Pas du tout. » Voilà. Le piège commence à se refermer, la mécanique de comédie s'enclenche à un rythme endiablé, les films qui explorent la thématique du double sont légion au cinéma, voilà. Et les réalisateurs Nicolas Charlet et Bruno Lavoine continuent de creuser ce sillon qui les obsède, la question de la gémellité, depuis longtemps. Le binôme pratique un humour joyeusement fantasque, autant à la télévision, c'est eux qui avaient fait le programme Message à carrière à caractère informatif sur Canal+, qu'au cinéma où leur premier film, La personne aux deux personnes, sorti en 2008, mettait déjà en scène deux hommes prisonniers d'un même corps. On redoutait une suite de scénettes à sketch enchaînées les unes aux autres, comme c'est trop souvent le cas dans les comédies françaises. Rien de tout cela. L'intrigue du film Alter Ego échappe habilement à ce travers, juste des petits clips, des petites scénettes pour rigoler, grâce à la profondeur inattendue d'un postulat ubuesque ainsi qu'à un humour ravageur. Dès que l'aiguillon de la jalousie névrotique d'Alex est activé par l'arrivée d'Axel, on va voir le trailer, t'inquiète. L'ancrage total dans le banal disparaît au profit d'une fable bizarre aux contours de plus en plus cauchemardesques. Les réalisateurs créent d'ailleurs une atmosphère étrange autour des protagonistes, en employant une image surexposée, parfois floue et cotonneuse, qui suggère la rêverie ou le cauchemar. Axel, lui là, le voisin trop parfait à la si belle chevelure, un peu comme Samuel Etienne, si gentil, si immédiatement sympathique, s'oppose en tout point au héros à la calvitie. Le pauvre. Affiché, Alex fulmine, s'agace, devient même bête et méchant, avant de s'enfoncer dans un délire obsessionnel. Alter Ego, donc c'est une réflexion sur le double, c'est une réflexion sur la jalousie aussi. Alter Ego mise tout sur l'effet miroir de son univers, des maisons identiques, des prénoms anagrammes, un travail similaire dans une entreprise de service qui leur alloue un bureau en face à face. Ah oui, ils bossent dans la même entreprise les deux. Voilà. Laurent Lafitte s'amuse beaucoup. Bon. Et là, je vous ai lu l'article du Figaro, mais il y a plein d'articles ce matin qui disent que le film est réussi. Trailer, bonne annonce. Alter Ego. Ok. Je l'ai. La BA, bande annonce. Tais-toi, Samuel Etienne.
Bonjour, je suis Axel, votre nouveau voisin.
Ouais, mais là, ça va. Non, c'est. Ça va pas être possible, ça.
Attends, excusez-moi. Moi, il faut que je me la refasse. C'est ça.
Bonjour, je suis Axel, votre nouveau voisin.
Ouais, mais là, ça va. Non, c'est. Ça va pas être possible, ça.
Ah, tu vois le voisin derrière? C'est dingue, non?
Ah, il ressemble à quelqu'un? Julien Courbet?
Enfin, Nathalie, ce mec, c'est mon sosie parfait, mais avec des cheveux.
Ton sosie, mais pas du tout. Vous avez absolument rien à voir. Je t'assure que c'est dans ta tête, tout ça.
Putain, tu es un peu rouillé le matin.
C'est dans ma tête. C'est dans ma tête.
Allô, oui.
Qu'est-ce qu'il est chic, tu le trouves pas?
Ce type, c'est moi, en mieux. Je fais des chouquettes, cuites sous la cendre. J'ai appris ça chez les Touaregs.
Bah ouais, évidemment.
Des chouquettes cuites sous la cendre? J'ai appris ça chez les Touaregs.
Bienvenue à la maison.
Bravo, mon amour. C'est génial.
À partir de maintenant, passe en mode.
Attends, les deux tantes. Les tantes, la compétition de tantes.
Bienvenue à la maison.
Bravo, mon amour. C'est génial.
À partir de maintenant, passe en mode bagarre.
Physiquement?
Il y a un truc qui cloche avec ce mec. Je suis sûr qu'il cache quelque chose.
Qu'est-ce que tu fais?
Il y a un petit souci avec moi.
Attends, ta gueule,
hein. C'est en train de dérailler complètement, hein.
Que je me mets tout le monde dans la poche, et nanani nanana.
Vraiment, ouais, la tête de con. C'est vraiment la tronche du con, du gros connard de merde.
Ok. Bon, écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Bon, Laurent Lafitte a l'air vraiment très bon, quoi. Donc, vous avez compris qu'il jouait les deux rôles, bien sûr, quoi. Ouais. Monsieur Fraise avec sa perruque, c'est qui Monsieur Fraise? C'est qui Monsieur Fraise? Merde, j'ai pas la ref. C'est qui Monsieur Fraise? C'est qui? C'était qui? C'était son collègue avec qui il parlait à la fin? C'est le goat absolu, c'est le pote de la fille dans le trailer. Humoriste découvert chez Ondar. Humour absurde. Ok, Monsieur Fraise. Ok, je découvre un truc. Monsieur Fraise YouTube. C'est lui là? Monique. Ok. Il est trop fort. 2 millions de vues pour le premier passage là. 8 minutes. Là c'est plus 58 secondes.
Casser les codes.
Merde, une pub. Il est drôle, il est trop fort. Monsieur Fraise, très drôle. On dit Monsieur Fraise ou... C'est quoi cette moto? C'est Monsieur Fraise ou Mister Fraise du coup? Ah, Mister Freeze. Ah, c'est ça le jeu de mots. Mais du coup, il dit... Mais il dit quoi? Il dit Monsieur Fraise ou Mister Fraise? Du coup, la vanne, elle est où? Comment il fait son truc? Monsieur Fraise, merci beaucoup.
C'est mon travail. C'est mon travail. Là, je travaille. Là, je suis en plein de travail. Oui, là, je travaille. C'est pas, je suis pas là pour le plaisir. Et non, c'est mon travail. Et oui. Je travaille le plus possible pour gagner le plus d'argent. Je serais bien content. Si j'ai envie d'acheter un produit, tiens, moi, je l'achète. Là, je gagne de l'argent, là. Là, j'ai qu'à attendre. C'est mon travail, c'est pas ma passion. Eh non, madame. C'est pas ma passion. Ma vraie passion, rien à voir, c'est les fringues.
Je connais pas, moi. Premier pas. Attends, regarde, oui, il y a un chrono. Moi, je connais pas bien l'émission. Il y a un chrono qui est en train de défiler, là. C'est ça, ils ont un temps limite. Émission qui a révélé Jérémy Ferrari. Hein. Ok, bon, moi, je suis très bon public, hein. C'est ma nature. Je suis pas toujours très bien informé. Je ne connaissais pas Monsieur Fraise. Au détour d'une conversation sur un film, vous m'avez parlé de Monsieur Fraise. Je connais qui est Monsieur Fraise. Voilà, j'ai découvert le sketch qui manifestement l'a rendu célèbre. L'annoncer. On aime, on n'aime pas. Il y a un comique de l'absurde, il y a un comique du silence. C'est assez. Klemovic, sérieux? Incroyable. Klemovic lance un live où il va parler de moi. Il y a marqué Dark Samuel dans le titre. Ok. Merci Clément. J'espère que ce sera sympa. Voilà. Et donc, ça c'est pour cette sortie de ciné dont on a parlé. Et la deuxième, sur un film qui s'appelle Christie avec Sydney Sweeney, dans le Figaro toujours. Héroïne vengeresse de la femme de ménage, la comédienne américaine, cible de bien des fantasmes et polémiques. Il y avait une histoire de pub pour des jeans. Hein, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez, ressurgit métamorphosée dans le biopic consacré à une championne de boxe pionnière et l'histoire de cette championne de boxe. En fait, moi je ne la connaissais pas et je la trouve vraiment intéressante. Lisons. Les cinéphiles français avaient quitté Sydney Sweeney, blonde, vengeresse, triomphante dans La femme de ménage, le thriller domestique tiré du livre de Freda McFadden qui avait affolé le box-office avec près de 4,5 millions d'entrées. Rien que pour la France. Ils ne vont pas la reconnaître ce mercredi dans Christie, le biopic qu'un réalisateur australien, David Michaud, consacre à la boxeuse Christie Martin. L'actrice, donc Sydney Sweeney, a pris 16 kilos de muscles et affiche des cheveux bruns bouclés et des yeux marrons pour incarner cette pionnière du ring des années 90, à une époque où la discipline commençait à peine à s'ouvrir aux femmes. Le film lève aussi le voile sur ses douloureux combats intimes, de son homosexualité qu'elle doit cacher à l'emprise de son entraîneur. Il l'épousera, cet entraîneur. Donc là, on parle d'une vraie histoire. Il l'épousera avant de la brimer, de la droguer. L'ascension et la descente aux enfers vont de pair dans ce portrait, certes classique, mais vibrant et émouvant. Je ne connaissais pas l'histoire de cette boxeuse. Le nom de Christy Martin ne me disait rien avant que je reçoive le scénario, dit l'actrice. Cela m'a interpellé, comment quelqu'un au parcours aussi inspirant et décisif est à ce point tombé dans l'oubli. C'est symptomatique des figures féminines dans l'histoire et le sport, pourtant son combat contre les violences conjugales peut sauver des vies, dit-elle. Elle rappelle que peu importe sa carrure, son origine sociale, n'importe qui peut être victime. Explique au Figaro Sydney Sweeney, également productrice du projet. Donc là, après, l'article nous parle de sa transformation physique qui est assez impressionnante pour devenir boxeuse, quoi. Et revient sur la polémique dont certains parlent dans le chat, que je vous explique maintenant, parce que le Figaro en parle aussi. Celle qui a grandi au bord d'un lac à la frontière de l'Idaho et de l'État de Washington en a bien besoin ces derniers mois. Malgré son profil de film à Oscar, Christy a été mouchée au box-office avec juste 2 millions de dollars de recettes. À cette déconvenue s'est ajoutée une pluie de polémiques. L'été passé, l'actrice était le visage d'une marque de jeans, marque de fringues, American Eagles Outfitters, mais le slogan Sydney has great jeans, Sydney a des jeans formidables en français, butait sur l'ambiguïté homonymique entre jean et gêne, hein, qui se prononce peu ou prou de la même manière en anglais, jeans. Les internautes y voient une connotation raciste, hein, Sydney a de beaux gènes, vous l'avez compris. On découvre que Sydney Sweeney est enregistrée par ailleurs comme votante républicaine. Il n'en faut pas plus pour que ses détracteurs l'affublent du surnom de Barbie MAGA. Hein, un poste de soutien du président Donald Trump enfonce le clou. La jeune femme ne rompt son silence qu'en décembre. J'ai été surprise par ses réactions. On m'a assigné des étiquettes et des convictions qui ne me correspondent pas. Je suis contre la haine et les divisions, déclare-t-elle. Je crois en l'amour. Dans le thriller reality, le récit d'horreur immaculé, le film de survie Eden, j'ai incarné des personnages qui bousculent l'image que les gens se font de moi. Aucun ne reflète ce que vous voyez sur le tapis rouge, dit-elle. Okay. Moi je me rappelle cette polémique, mais j'avais pas trop compris parce que je connaissais pas trop cette actrice. Maintenant je comprends un peu le contexte. En gros, elle était accusée après cette marque de pub d'être une conservatrice, une MAGA. Ok. Mais je note qu'elle croit en l'amour. Voilà. Alors moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est plutôt l'histoire de cette boxeuse que je ne connaissais pas et que je trouve assez incroyable. Voilà, je vous propose d'aller voir le trailer de Christy en VOST après avoir vu Monsieur Fraise. Trailer Christy VOST, let's go. Je l'ai. Christy, bande annonce VOST inspirée de faits réels. Let's go. Ah ben je l'ai. Ok, je comprends. Riri à l'outre écrit championne de boxe, pionnière, figure féministe par son engagement dans le sport, son homosexualité, qui est interprétée par une actrice ouvertement conservatrice républicaine, selon ses multiples déclarations. Donc polémique compréhensible, nous dit Riri. Merci Anne, merci Quinquagénaire, merci Kazeline, merci Lukawa. Voyons la bande-annonce.
You must be the lady I've been hearing so much about.
Yes, sir. It's an honor to meet you, Mr. King.
Well, tell me about yourself. Jesse here says that you fight in all pink.
Well, I'm from West Virginia.
What's that got to do with pink?
Nothing, sir. I'm just telling you about myself.
Yeah, pink was my idea.
Champion right now. You think you what makes the world turn. But one day you're gonna wake up and realize that it turns just fine without you.
What are you doing sneaking around behind my back?
I'm sneaking around.
Hey, Dad. I think I want to come home.
want to lose your trainer, your career, all of it.
Honey, you are like family to me. I am worried about you. I've heard some stuff.
What stuff?
There's no Christy Martin without me.
I need help, Mama. He's angry at me all the time.
Oh, Christy. You sound crazy.
If you leave me, I'll kill you.
What do we have to do? I spent half my life hiding. It's my house. It's my things. It's my dream.
Oh boy, ladies and gentlemen, have I got a treat for you.
Okay. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que je découvre l'histoire de cette femme, donc. Comment s'appelle-t-elle ? Cette boxeuse, donc. Christy Martin. Ok, c'est le nom du film. J'ai envie d'en savoir un peu plus. Parce que, est-ce qu'on a une petite fiche wiki, par exemple ? Christy. Ok. Vous connaissez son histoire ? Christy Martin, née en 68, surnommée la fille du mineur de charbon, ancienne boxeuse professionnelle, américaine, analyste de boxe, conférencière, motivatrice, active de 89 à 2012, détenue le titre WBC féminin des super mi-moyens en 2009, première boxeuse élue au Nevada Boxing Hall of Fame en 2016. Donc elle naît en Virginie Occidentale, petite ville liée à l'industrie du charbon, dont les parents sont mère au foyer et soudeur. Alors qu'elle n'a jamais enfilé de gants de boxe, Martin décide de participer à un Tarthman Contest, compétition de boxe amateur populaire aux États-Unis, généralement ouverte à des participants non professionnels, en 87, première année où les femmes sont autorisées à concourir à ce type d'événement. Elle remporte la compétition facilement. Selon Martin, sa participation n'a alors rien à voir avec l'ambition de devenir boxeuse, mais dans le but de relever un défi personnel, prouver à ceux qui en doutaient qu'elle était capable d'y arriver. Elle continue à s'entraîner. En 91, elle s'associe à l'entraîneur Jim Martin. Sans véritable plan de carrière, elle continue de persévérer, de progresser. En 93, le promoteur de boxe Don King, qu'on a vu dans le film, qui a travaillé avec des boxeurs tels que Mohamed Ali, George Foreman et Mike Tyson, engage Martin. Alors qu'il n'a jamais encore promu de femme, il commence à la programmer rapidement hors des combats de Tyson, la payant des milliers de dollars à chaque apparition. Le 16 mars 1996, vêtue en rose, elle affronte la boxeuse irlandaise Deirdre Gogarty à Las Vegas. En match undercard, je pense que c'est un peu comme une première partie peut-être pour un concert, du combat pour le titre de champion du monde des poids lourds entre Tyson et Frank Bruno. Cette opposition entre deux femmes est diffusée à la télévision. Lors du deuxième round, Gogarty frappe Martin en plein nez, qui se met à saigner abondamment. Malgré cela, elle refuse d'abandonner le combat, finit par l'emporter après 6 rounds sur décision au point. Leur combat spectaculaire et sanglant captive davantage le public que le combat principal. Par la suite, un commentateur déclarera que le public essentiellement masculin réalisait en 5 ou 10 secondes qu'il ne regardait pas un simple numéro de cirque, tant le combat était féroce et sérieux. L'impact médiatique du combat est énorme. Martin devient une sensation du jour au lendemain, même à l'international. Incroyable. Le 9 novembre 1996, donc la même année, Christy Martin remporte une victoire par KO technique en poids léger en seulement 2 minutes contre Bethany Payne. Grâce à cette victoire expéditive, elle gagne $75,000, ce qui est alors une somme record versée à une boxeuse professionnelle. La carrière de Christy Martin connaît un coup d'arrêt, car elle est victime d'une violente tentative de meurtre perpétrée par son mari et entraîneur, Jim Martin, le 23 novembre 2010. Cependant, environ 7 mois après ces faits, elle décide de revenir à la compétition avec pour objectif de décrocher sa 50e victoire pro et prouver à Jim Martin qu'elle peut réussir sans lui. Le 4 juin 2011, elle affronte Dakota Stone à Los Angeles. Durant le 4e round, elle parvient notamment à envoyer son adversaire au tapis, alors que Stone n'a jamais été mis KO auparavant. Toutefois, en portant ce coup, elle se fracture la main droite. Mais cela ne l'empêche pas de poursuivre le combat. Selon les éléments rapportés, elle est en avance sur les scores. Fin du match. Elle boxe essentiellement avec sa main gauche. Le médecin du ring intervient et recommande l'arrêt du combat. L'arbitre met fin à la rencontre, malgré les protestations de Martin. Et son adversaire est déclaré vainqueur. Aïe. Ah ouais, c'est chaud. Bah non. Donc voilà. Donc moi, ce que je trouve intéressant dans cet article sur le film Christie, c'est que bah, il met en lumière cette histoire de cette femme donc, qui est toujours vivante, hein, qui a 57 ans aujourd'hui, qui est Christie Martin. Mais ce qui est fou, c'est que du coup, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que manifestement... son époux a tenté de la tuer, mais elle a gardé son nom d'épouse, peut-être parce que c'était son nom de sportive, peut-être. Christie Martin, son nom de jeune fille, c'est Christie Renea Salters. Peut-être parce que c'était son nom de sportive, je suppose. Bon, c'est assez incroyable. Merci les amis pour ce matin. Oui, comme Tina Turner, t'as raison. Ah oui, Ike Turner. Eh oui, t'as raison, Jelloman, tu as raison. Ah oui, comme Tina Turner. Tu as raison. Ouais. Les amis, un grand merci pour ce matin. Revue de presse un peu courte, hein. Mais bon, on a tryhardé l'actu, on a été très, très, très intense, très efficace. Je file retrouver ma petite famille. Je vous dis. Pas ce soir. Je stream pas ce soir. Je vais un peu m'occuper de, des enfants. Petite soirée familiale ce soir. Tu auras un nouveau son pour la prochaine fois. Merci Bardino. Je stream pas ce soir. Et puis on se retrouve demain matin pour la revue de presse. Ok ? D'accord ? On fait un petit raid ? Alors, effectivement, vous m'avez signalé que l'ami Clément Viktorovitch Klemovitch fait un stream actuellement qui est intitulé Le lait de Gabi, Dark Samuel, Louis le Beauf, c'est le retour des perles. Je ne sais pas ce que l'ami Clément va dire sur moi, mais c'est toujours une analyse éclairée et intelligente, puisque c'est Klemovitch. Bah, écoutez, on va le voir. Et moi, je vous dis à demain matin. Des bisous. Merci pour tout. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Passez une belle journée. J'espère qu'il y a de la lumière et du soleil chez vous. On va voir Dark Samuel avec Klemovitch. À demain matin. Merci encore pour la force. Merci pour tout. Ça part dans 3 secondes. 3, 2, 1.
Eh oui, Samuel Etienne, il a pris de l'argent.